Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Les mecs que je veux ken. Mes coccinelles, mes scarabées verts dorés, j'espère que vous entendez pas un petit bruit en arrière-plan, c'est mon frigo, voilà, que j'ai acheté chez Darty, parce que mes voisins m'ont dit que l'ancien frigo ne fonctionnait pas, parce que le mur du froid était cassé, qu'il y avait tout le temps de l'eau dans le bac, mais c'était pas grave, l'eau ne me dérangeait pas tant que ça. J'ai dépensé 700 balles pour un nouveau frigo qui fait un bruit du tonnerre de Dieu, ça vrombrit. Attendez, si je me tais, je vais essayer de voir ce que ça donne. Enfin bref, c'est insupportable, il faut que je rappelle Darty. Je les ai appelés, il y a un technicien qui est venu, mais pile évidemment au moment où il était là. Le frigo ne faisait plus aucun bruit. Et ensuite, il m'a dit, il faut que vous filmiez le frigo qui fait du bruit et que vous rappeliez Darty. Et j'ai pas encore eu le courage, j'ai eu la flemme. Parce que j'étais occupée, aujourd'hui nous recevons un mec dans la summer édition des meufs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a parfois des contingences d'actu et que Kyron joue en ce moment à l'Européen, la nouvelle version de son spectacle Dragon. À ne manquer sous aucun prétexte si vous êtes à Paris cet été. Vous vous dites peut-être, tiens, un deuxième épisode dans la semaine. Eh oui, bah, j'ai pris beaucoup d'avance, j'étais très gourmande et enregistré énormément d'épisodes en amont. Donc vous aurez certainement cet été souvent deux épisodes par semaine, un lundi et un nouveau le jeudi. Et comme ça fait quand même pas mal de taf, cette intro sera courte. Voilà, il faut que je me consacre peut-être moins à vous et au podcast et plus à mes problèmes ménagers, que je rappelle Darty, que je trouve ce courage, encouragez-moi. Si vous voulez mettre en commentaire du post Insta de cet épisode appel Darty, ça me donnera peut-être un peu de motivation. Vous pouvez aussi partager l'épisode en story, hashtag Darty, et je me motiverai. Enfin, le but c'est pas de leur faire de la pub, hein. Le but c'est de changer de frigo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet, avec ou sans pompiers. Et maintenant, bonne écoute. Kyron.
Moi-même. Pardon, j'interromps pas, c'est un poème.
Oui.
Que t'as écrit ou que tu lis ?
Non, que j'ai écrit pour toi.
Alors, j'écoute avec encore plus d'attention.
Poème pour Kyron. Kyron, sais-tu que nous avons au moins un point commun ? L'international. Nous savions tous les deux chanter ce chant communiste quand nous étions enfants. Et sais-tu que tu as déjà dû rencontrer, ou au moins croiser, ma petite sœur Emma ? Elle travaillait au renfort costume sur ton premier film, Nous trois ou rien, que j'ai adoré, qui est incroyablement émouvant. Et Emma était très touchée car tu avais invité toute l'équipe à voir ton spectacle dans ta ville. Et c'était méga giga drôle, dixit elle et moi. J'étais là vendredi dernier à l'Européen. Je dirais que ta force n'est pas tant la répartie certes vive que la mémoire des noms et situations pour pouvoir faire des callbacks et boucler des vannes à l'intérieur du spectacle, rappeler la blague issue d'une première interaction plus tard au milieu d'une autre. C'est ce qui est le plus impressionnant et te vaut assurément l'admiration du public, que tu rassures, je suis pas mentaliste. Pourtant, tu devines bien les gens, tu maîtrises les plus excités, restes calme face à ceux qui font les malins. On sent peut-être l'ancien éducateur à Pierrefitte. Des extraits très efficaces sont publiés sur ta chaîne YouTube qui compte 431 000 abonnés. Quand as-tu pris ce pli ? La vidéo et les réseaux te sont-ils encore nécessaires avec un spectacle aussi maîtrisé dans sa liberté, des fans comme Aziz complètement dévoués ?
Ah, t'étais là la première, ouais. C'est vrai.
Vendredi, la salle de l'Européen était évidemment pleine à craquer et j'ai même lu que tu y détiens le record de longévité et d'affluence, 18 mois. C'est énorme.
Plus, là, on l'a battu.
Plus.
Oh, boy, ça, c'était à 7 ans, j'avais les records. Là, c'est... On s'en fiche. Continue, c'est très bien, pardon.
Kyron, roi de l'impro et réalisateur de talent, quels sont tes rêves, tes envies aujourd'hui ?
Déjà bravo. Bah non, c'est pas rien déjà. Merci.
Merci à toi.
Alors, t'as posé plusieurs questions, je commence par laquelle?
Eh ben, on a toute une heure pour le faire.
Trop mignon. Ah oui, t'étais là la première, c'est
ouais,
vrai.
Ouais, j'étais là la toute première.
Ouais, la deuxième. Ah, était particulière la première. Première version de Dragon.
Ouais.
Donc il y a des petits changements par rapport à voilà, ceux qui ont vu peut-être habituellement. Donc je stresse jamais, mais je voulais être sûr quand même que ces petits changements se passent bien. C'est des choses qui sont pas forcément visibles pour le public.
Ouais.
Et ça m'a perturbé parce que bah, t'as parlé d'Aziz.
Ouais.
Aziz, alors c'est pour la majorité de tes auditeurs qui n'étaient pas là ouais. ce soir-là, c'est quelqu'un qui était anormalement enthousiaste. C'est-à-dire ouais. que quand la lumière s'est éteinte, elle a commencé à crier.
Et
ensuite,
oui.
pendant l'intro, il s'est levé, il a applaudi au premier rang, évidemment.
Et toi, tu ne l'as pas vu avant ?
Non, je ne l'ai pas vu avant.
Moi, j'étais dans la salle. Oh, Aziz, non. quand le public rentrait, il était déjà comme un barge.
Ouais.
Pendant que la salle de l'Européen se remplissait, il se levait, il se mettait debout et il sautait et il bougeait ses bras en l'air.
Ouais, je sais que ça part d'une bonne intention. Je sais que c'est quelqu'un qui alors, il m'aime, j'allais dire qu'il m'aime beaucoup, mais non, il pense m'aimer, mais il aime mon travail. Il aime beaucoup mon travail. Et donc, c'est sa façon à lui de
exprimer sa gratitude.
De l'exprimer, exactement. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas rendu service ce
ouais,
soir-là.
C'est intense.
Ça ne m'a pas rendu service et j'ai dû utiliser plusieurs chemins pour arriver à le mettre dans le cadre. Et je ne sais même pas si j'ai réussi jusqu'à la fin, au final.
Bah, en tout cas, du public, c'était très drôle. Parce que, en fait, pardon pour Aziz, mais je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais tu es quelqu'un qui était très premier degré dans l'intensité de ses émotions.
Ouais,
hein.
Complètement.
mais après, et ça faisait que son énergie, en fait, toutes les autres paraissaient peut-être un peu moins que la sienne. Donc pour toi, pour créer... c'est vrai que tout le monde avait
Exactement.
Envie que les choses reviennent vers lui, quoi.
Exactement. Mmh. Et c'est pas évident. Et j'ai utilisé tout ce qui était possible d'utiliser pour pas le mettre mal à l'aise, mais lui faire comprendre que là, ça devient relou, que c'était relou déjà il y a 10 minutes. Et tu vois, et au final, j'ai l'impression quand même que là où je suis fier, c'est que... Bon, moi, ça m'a mis en difficulté.
Ça s'est pas vu du tout.
Voilà, ça s'est pas
vu.
Non. Ça s'est pas vu. Mais à la fin, c'est la photo, on l'a appelée photo Aziz. D'ailleurs, les gens peuvent aller voir sur les réseaux. C'était le vendredi 1er juillet. La photo s'appelle Requin Aziz. Ça veut dire que les gens l'ont validé.
Ah, mais oui.
Et je sais que s'ils l'ont validé, c'est parce que j'ai réussi à en faire quelqu'un de sympathique.
Complètement. Toi, tu as réussi à le transformer en personnage sympathique, alors que j'imagine que toi, ton but, c'est de mettre des billes un peu partout dans le public et de jouer avec différentes énergies.
Exactement.
Et pas qu'il y en ait une aussi forte
Exactement.
En plein milieu.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
T'as tout dit. Bah, t'as compris le concept du spectacle. Moi, mon kiff, c'est quand le spectacle est dans toute la salle.
Mmh.
Franchement, c'est rarissime. Ça se compte sur les doigts d'une main. Les fois où un relou a réussi à créer de la bienveillance pour lui, c'est vraiment rarissime. Il s'est passé un truc un peu magique.
Ouais.
C'est un mélange, mais il avait
Parce
aussi une tête d'enfant.
Parce qu'il t'aimait tellement.
Ouais,
il t'aimait et qu'il avait une
il
voix.
Il était sincère.
Et il te disait qu'il t'aimait. En fait, c'était quasi... c'était gênant slash émouvant.
C'est ça. Il n'était pas venu pour se faire remarquer.
Non, il t'aimait
il
juste plus que tout, quoi.
Voilà, il m'aimait mal.
Ouais, il t'aimait mal. Et sa meuf était larguée, quoi. Sa meuf avait l'air
tout
de...
Tout le monde était largué.
Ouais. Ouais, ouais.
Personne ne comprenait ce qui se passait. Les réponses étaient fortes. Ils répondaient pour les auditeurs. Tu sais, parfois tu parles, mais c'est des questions rhétoriques quand tu dis.
Ils répondaient à tout.
Ils répondaient à tout. Mmh. Tu dis, je sais pas pour vous, mais moi, le café. Moi j'aime bien.
Ouais.
Et il le prenait pour lui. Tu vois, c'est le gars qui.
J'avoue, t'es resté
zen. Qui parle à la télé.
Mais alors, tu vois, moi, c'est pas Aziz qui m'a fait flipper ce soir-là. C'est les mecs qui étaient tout au fond.
Les mecs qui étaient tout au fond.
Celui qui a fait la blague sur l'éjaculateur précoce. En fait, tu poses des questions, tu vois.
Mais ils ont parlé qu'une fois, non? Ou toi, tu étais à côté d'eux, c'est ça?
Moi, ils étaient un peu derrière moi.
Je les entendais pas, moi. Ils parlaient fort?
Non, mais ils avaient une attitude, parce que Aziz, il était fan, mais il avait ce côté genre, l'idiot du village,
ouais.
tu vois. Donc,
ouais.
En fait, il n'y avait pas d'agressivité du tout de sa part.
Ah, eux, il y en avait, c'est ça?
Eux, tu sentais un peu plus ils essayaient de répondre par des blagues. Et alors que les autres, les spectateurs à ton spectacle répondent sincèrement. Le but, c'est pas de te faire une blague
oui,
quand tu poses une question.
Exactement.
Quoi.
Ouais.
Et donc, résultat, moi, ça m'aurait crispé. Et toi, t'étais resté super zen.
Ouais, il y a encore des. Mais tu vois, je pense que pareil, il faut qu'on s'éduque les uns les autres. Et
ouais.
il faut éduquer le public aussi. Il faut leur dire qu'ils viennent pas pour être drôles. Ils viennent pour être eux-mêmes. Et c'est en étant eux-mêmes qu'ils vont donner de la matière à l'humoriste pour faire rire tout le monde et créer quelque chose de drôle. Quand les gens essayent d'être drôles. Allez, ça passe une fois, le public applaudit par gentillesse, mais à moins de sortir un missile, ce qui est rarissime, vaut mieux jouer la carte de la sincérité.
Mais oui.
Tu vois ?
Oui. C'est quoi ton spectateur préféré, genre ton attitude préférée d'un spectateur en interaction ?
Ah, c'est la sincérité.
Sincérité.
C'est quelqu'un qui se livre sans, sans faire de rétention d'informations, qui ose aller dans la profondeur et qui donne tout, qui n'a pas peur du regard des autres et qui est le plus sincère possible. Il y a des, y a des situations incroyables qui sont nées de moments comme ça. Bah, regarde, j'ai une vidéo un soir, il y a un gars pendant le spectacle, je sais plus comment je l'amorce le truc, mais je lui parle parce qu'il fait un truc bizarre et il me fait non, bah, je suis en train de me faire larguer en direct.
Wow.
Et c'est une de mes vidéos YouTube.
Ah ouais, je l'ai pas vue celle-là.
Ouais, il dit bah je me suis fait larguer là et voilà, je suis là tout seul, truc et tout, etc. Et je fais tu veux qu'on l'appelle ?
Oh.
Et les mecs font ouais. Il y a des filles qui font non.
Oh.
Il y a c'était vers la fin du spectacle, donc il y a les ouvreuses qui sont sur ma gauche qui me font non, Kayron, non. Mais moi je suis très pote avec les ouvreuses. Donc elles osent vraiment, elles savent que mon spectacle c'est le bordel. Donc il y en a une qui fait Kayron, ça se fait pas sur scène. T'as pas une ouvreuse dans aucun spectacle qui ose faire ça.
Ouais.
Je fais comment ça se fait pas ? Elle fait non, tu vas foutre la merde dans le couple. Et il y a un dialogue qui se met en place entre lui d'un côté, tout le public et les ouvreuses et moi.
Incroyable.
Et je fais qu'est-ce qu'on fait ? On l'appelle ou pas ? Le public, ouais, lui, bah, je sais pas, les ouvreuses, non, on vote et on vote pour qu'on l'appelle. Et pendant que je l'appelle, je sens les ouvreuses qui me regardent, genre putain, mais tu vas tout niquer encore, t'es chiant, putain. Tu te rends pas compte des retombées dans la vie des gens. Toi, tu t'amuses sur scène, mais pour lui, il y a une suite après. Je vois les gens excités dans le public qui ont hâte, lui, il est mitigé, il est entre les deux. Il y a des filles qui regardent avec pitié, etc., etc. Et on l'appelle finalement. Et je sais plus, je lui fais une blague au téléphone, un truc. Ah oui, il y avait une vieille dans la salle. Et je lui dis, oui, bonjour, je voudrais parler à... Vous êtes je sais plus qui, la copine de je sais plus qui. Elle me dit, pourquoi ? Je dis, non, on voulait juste vous dire que ce soir, il a sauvé une vieille dame dans le public. Il a fait un geste incroyable, parce que c'était faux. Hein. Il a fait un geste incroyable, etc. Il a été extraordinaire. Quel citoyen incroyable. J'espère que vous êtes conscient de la chance que vous avez d'être avec lui. Je sais plus, j'ai dû dire une connerie comme
elle
ça.
Elle a cramé que c'est un mytho ou elle y a cru ?
Je sais pas du tout. Mais moi, j'ai raccroché là. Et quelques temps plus tard au spectacle, le gars lève la main et il dit « T'as rappelé pas de moi, mais je suis venu il y a quelques temps. » Et là, j'ai ramené ma copine, on s'est remis ensemble grâce à ton coup de pile. Et j'en ai plein des histoires comme ça.
Et là, tu pleures quand ça se passe.
C'est incroyable.
Non, mais là, c'est incroyable.
Il a été... Mais là, t'as les larmes, c'est marrant.
Ah hein. Ouais, je trouve l'anecdote dingue.
Et pareil, une fois, il y avait une fille qui était... Et là aussi, il y a la vidéo qui était Quentin, et je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille. Il y a une fille qui était dépressive. Elle dit « Voilà, je ne sais plus pourquoi je lui parle, dépressive. » Tu cherches un mec depuis combien de temps ? Ça fait un moment, mon ex il m'a jeté parce que j'ai la maladie de Crohn et il m'a dit ouais, une phrase horrible.
Oh. Alors,
déjà t'es pas terrible, mec, ça sera encore moins terrible. Je sais plus la phrase, mais elle est sur la vidéo, sur ma chaîne YouTube. Et là, c'est pour ça que je commence à faire des vidéos parce que personne ne me croyait quand je racontais des anecdotes.
Mais oui, c'est pour ça.
Je te jure, les gens me croyaient pas, mais t'es un mytho, allez, genre.
Ouais.
J'avais des anecdotes qui allaient trop loin. Et donc je dis c'est quoi ton style de mec ? Et elle me dit, bah, je vais me mettre comme ça, comme ci, comme ça. Je dis, ok, les gars, levez-vous. Truc, je fais un truc que je fais de temps en temps. À la fin, il reste un gars. Je dis, bah voilà, vous échangerez vos numéros et tout. Et.
Ils sont en couple ?
Bah, ils sont en couple. Ils sont revenus voir mon spectacle à deux.
Mais non !
Je te jure, j'en ai plein de trucs comme ça.
Et t'as jamais eu des demandes, genre d'officier des mariages ?
Si, il y en a plein qui. Bah, mais t'as pas vu le nombre de demandes de mariage que j'ai dans mes spectacles ? J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. En termes de, tu sais, pour amener une demande. Ça veut dire que j'ai eu 10 demandes de mariage, je crois, dans mon spectacle déjà.
Ah ouais ?
J'ai le gars qui. Tout ça s'est filmé, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai eu le gars qui. Le mec me dit avant comment je peux faire pour le truc mariage. Et je lui dis écoute, je vais poser la question qui a fait un truc impressionnant pour sa meuf ? C'est quoi le truc le plus beau que vous ayez fait ? Et toi, tu vas attendre 2-3 personnes, je vais te regarder, tu vas me dire où t'es assis, je vais te regarder. À ce moment-là, tu vas lever la main et tu vas dire moi, c'est pas un truc que j'ai fait, c'est un truc que je m'apprête à faire. Et tu sors ta bague. Et je leur mâche même le truc, tu vois.
Ah ouais, tu leur expliques, tu leur donnes le scénario. Ah, ça c'est... Attends, parce que moi, je suis allée en voir des vidéos, mais j'ai pas vu celle-ci. Et donc,
c'est une des premières.
Ah, c'est au tout début.
Ouais, c'est une des premières.
Et ensuite, comment le mec, il te contacte avant ? Comment il fait ?
Ouais,
il
me contacte sur Insta, sur Twitter, sur les réseaux. Il me dit, j'ai envie de demander.
Ouais.
Et moi, je tiens tellement à ce que ce soit pas gênant pour les gens et qu'il y ait pas deux personnes qui vivent un truc dans leur coin et qu'on soit tous saoulés.
Que tu prépares.
Je prépare.
Ouais.
Donc, je lui dis, tu fais ça. Après, quelqu'un d'autre me demande quelques mois après. Et là, je lui dis, ok, on va faire autrement. Cette fois-ci, je vais vous parler d'enfance, de nanana, je sais pas quoi, de fait d'avoir des enfants. Et je vais dire, elle veut se marier. Elle dit, ouais, elle attend que ça. Je dis, ok, bah, je vais lui dire, bah, pourquoi tu l'épouses pas ? Et tu vas sortir la bague rapidement. On va la choquer. Et alors, pourquoi vous mariez pas ? Bah, je sais pas, il veut pas, tu veux pas ? Bah, t'as qu'à l'épouser. Ok, vas-y, il ressort la bague. Bah,
Et là, la salle, wouh, voilà. Les gens sont en délire.
Une
et...
autre fois, on a essayé encore un autre truc, c'est une de mes préférées, c'est que j'ai commencé en disant, là les amis, vous allez être émus, parce qu'il va y avoir une demande en mariage. Tu vois, je l'ai annoncé avant.
Ok.
Mais maintenant, on ne sait pas qui. Même vous, les filles, vous ne savez pas qui. Et tu vois, il y avait une situation où chaque meuf regardait son gars en se disant, attends.
Ça peut foutre la merde, c'est certain.
Voilà, j'avais des infos, j'ai dit, levez-vous tous. Ceux qui fument, rassiez-vous. Ou parce que je savais qu'ils ne fumaient pas, par exemple.
Okay.
T'as des couples qui se rassiez. Donc, t'as une situation qui se crée, tu vois.
Ah ouais, incroyable.
Et on se fait un 10 minutes sur mes réactions, enfin des vannes que je crée sur les réactions du public. Il y a une fille qui s'assoit en disant ouf. Je fais, ah oui, ah toi, ouais. Ouf. On rentre dans leur couple. Tous les autres sont encore debout. Jusqu'à trouver les deux couples. Et les deux couples qui restaient à la fin. Et là, je dis, c'est quoi votre nom, truc ? Eh ben, c'est vous. Et là, elle demande en mariage, musique et tout. Voilà.
Bam.
Donc, je sais que ça a influé. Je sais
et
que...
les meufs, elles sont en chiale.
Ouais, elle pleure souvent quand même sur ça. C'est un truc important pour beaucoup de filles, le mariage. Moi, je dis malheureusement parce que...
Moi, pas du tout, mais...
Je trouve que t'as de la chance, t'es libérée de ce truc-là.
Ouais.
Pour moi, c'est un truc symbolique qu'on a mis dans la tête des gens depuis petit. Et je respecte et tout. Moi-même, j'ai divorcé deux fois, donc tu vois...
T'as divorcé deux fois
déjà. J'ai été dans l'histoire, mais... Aujourd'hui, je suis un peu vacciné de ça et j'ai ce sentiment que, enfin, quand tu vois les choses de loin, en tout cas, voilà, les gens pleurent souvent, ça les touche et c'est émouvant pour eux et c'est un moment important dans leur vie, ouais.
Ouais, le mariage, en fait, moi, avoir des enfants, tu vois, ça, c'est une pression de la société que j'ai. À la fois, je trouve que c'est une image de réussite. Enfin, le cliché, c'est une femme évidemment accomplie si elle a des enfants. Et même en sortant de ces images-là, moi, j'ai envie d'en avoir.
Ouais.
Et j'ai 33 ans et je ressens pression de ma mère principalement, mais aussi de moi-même. Mais après, le mariage, tu vois, finalement, mes parents, déjà, ils ont divorcé.
Ok, ça joue aussi.
Ça aide, ça te désacralise le truc direct.
Bah oui, parce que tu vois l'envers du décor.
Ah ouais. Et puis c'est tellement sale que tu te dis, ah non, en fait, ça en vaut pas la peine.
Mais t'imagines la pression. Le concept du mariage, c'est de choisir une personne jusqu'à la fin de ta vie.
Ouais.
Tu ne sais même pas comment toi, tu seras dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que toi-même, tu seras la même personne que tu es aujourd'hui ? Comment tu peux attendre de quelqu'un qui soit exactement la même version que tu épouses aujourd'hui ?
Et puis tu ne trouves pas que c'est un peu bad karma, l'idée même du mariage ? De devoir show off, montrer, exposer ton bonheur. Pour moi.
Toi, tu parles de la fête.
Ouais.
Moi, je parle même du principe déjà. Le principe, au-delà de la fête.
Déjà, le principe, oui. Aimer une seule personne toute sa vie, oui, au Moyen-Âge, quand tu vivais 25 ans, tu vois.
Oui.
Éventuellement. Et encore.
C'était tout à l'heure.
Mais sinon, aujourd'hui, je sais pas. Et puis, même moi, je me dis, j'aurais peur, tu vois, d'organiser un gros mariage. Plus le mariage deviendrait gros, plus je serais en mode, je sens que ça va capoter. Tu vois.
Ouais.
Plus tu mets une belle.
Fait,
blanche.
Moi j'ai fait des trucs comme ça donc après à un moment donné tu te prends au jeu en fait, t'as envie de faire plaisir à la personne que t'aimes et tu sais c'est un truc où moi j'ai eu la chance d'avoir des ex-femmes faciles à vivre tu vois, mais c'était vraiment un truc qui était important pour elles, donc du coup tu te dis bon ce truc là on va...
Pour lui faire plaisir, si ça lui fait tellement plaisir.
Mais c'est que ça en vrai, c'est que ça, on va lui faire plaisir.
Elles avaient une robe blanche à leur mariage ?
Ah non mais plusieurs robes, attention, on a fait des vrais trucs.
D'accord.
On a fait des vrais trucs.
D'accord.
Des chorégraphies, des trucs, des feux d'artifice,
des dragons.
Ah ouais, des spectacles. Non, c'était fou.
Ah oui.
C'était fou. Les deux, les mariages étaient magnifiques.
Ouais.
C'était des beaux souvenirs, tu vois.
Moi, j'aimerais bien, à la limite, le mariage de tes parents dans ton film, tout simple.
Ah,
tu vois,
boum,
dans l'appartement, en Iran.
Oh ouais, caché.
Tout discret, où tu sens qu'il y a quoi, une quinzaine de personnes. Ça, je trouve ça mignon.
Mais je sais pas si ma mère, elle aurait pas préféré un vrai mariage, tu vois. Quand j'y pense, quand je vois l'énergie que ma mère, elle a mis dans mes mariages, tu vois, au début elle arrivait, oui, donc, et puis après, allez, on va prendre des colombes, on va prendre 7000. Et puis tu vois, tu dis finalement, il y a aussi un truc où peut-être qu'elle aussi elle aurait aimé avoir un joli mariage au final.
Ouais, tu te prends au jeu, tu te prends au délire, quoi.
Ouais.
Et c'est beau, c'est une tradition iranienne de se mettre sous une table comme ça.
C'est pas une table en fait, il y a plein de gens qui pensent dans le film que c'est une table, en fait, c'est un voile. C'est un voile, un drap qu'on tient par-dessus.
D'accord, comme la roupa chez les juifs.
Bah voilà, c'est ça.
Ouais, okay.
Et t'as des femmes qui cassent du sucre, en fait, sur le dos, pour qu'on vous casse du sucre maintenant, sur le drap, comme ça, on vous cassera pas de sucre plus tard, pendant le mariage. Je crois que c'est ça le truc. On voit les comédiennes dans le film faire le mouvement de casser du sucre, et on est vraiment sous un drap, en fait, c'est pas une table. Mais j'ai plein de potes qui me disent...
C'est beau, si, c'est génial, c'est mignon, ça fait comme une petite maison. Mais attends, Kairon, j'ai une question.
Ouais.
Comment on peut genre faire un énorme mariage, et là, ça marche pas, et ensuite en refaire un deuxième énorme ?
Parce que on n'apprend pas forcément de ses erreurs.
Et puis tu y crois une deuxième fois, quoi.
Voilà.
Ouais, tout
mais
simplement.
Aujourd'hui, j'ai vraiment pris du recul après mon deuxième divorce et j'ai vraiment réfléchi à toute cette. Ça m'a vraiment pris une année pour comprendre comment
la
je
pauvre,
me situais.
La troisième, t'imagines.
Non, mais j'espère qu'il n'y aura pas de troisième. Je me le souhaite. Non, je me souhaite d'avoir une femme incroyable, mais de ne pas l'épouser, tu vois. Ou alors je l'épouserai un peu avant.
À la mairie, allez hop.
Quand on aura quelques enfants pour la mettre à l'abri, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu vois. Mais non, c'est trop compliqué. En fait, c'est tellement compliqué parce que. Quand tu te maries, je veux pas passer pour le mec anti-mariage et tout, hein, y a plein de gens à qui ça réussit, mais pour moi, c'est pas mon truc. Mais en gros, quand t'es en couple et que ça se passe bien, c'est très bien. Quand t'es en couple et que ça se passe mal, bah vous vous quittez, c'est relativement facile. Quand t'es marié et que ça se passe bien, ça se passe bien. Quand t'es marié et que vous voulez vous quitter, c'est un enfer. Et ça, les gens le savent pas, c'est un enfer. Légalement, parce que au-delà de la dimension que tout le monde sait que vous êtes ensemble, que la dimension familiale, c'est, un mariage c'est pas deux personnes qui se disent qu'ils s'aiment, c'est deux familles qui s'unissent. C'est ça qu'on oublie. Et les problèmes prennent des grosses proportions. Et puis surtout, t'as cette notion où légalement, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire des deux côtés, tu vois. Il y a des consensus à trouver et parfois quand t'es dans la colère, quand t'es dans la déception, quand t'es dans la tristesse, quand t'as envie de passer à autre chose, bah tu peux pas attendre 2 ans qu'un juge dise c'est bon. Et pourtant tu vas devoir passer par là.
Ah ouais. Bah tu peux te séparer physiquement déjà avant, mais c'est dur.
Oui, mais
c'est
ça
compliqué.
Aussi, il faut moi encore une fois, je parle pas de mes expériences, hein, parce que moi j'ai eu de la chance, ça s'est relativement bien passé. Mais par exemple, je sais que je te donne un truc tout con. Il y a un truc qui s'appelle le domicile conjugal.
Oui.
C'est simple, ça veut dire que si je me trompe, j'espère me tromper, mais jusqu'ici, il y a aucun, personne ne m'a dit que c'était faux. Donc, s'il y a des avocats qui écoutent, ils sont bienvenus pour se manifester. En gros, si toi, tu as un appartement que tu as payé de toi-même, tu as économisé des années pour le payer.
Il appartient aux deux.
On se marie tous les deux, d'accord ? Qu'on soit en régime de communauté ou séparation ou ce que tu veux, je m'installe chez toi.
Ouais.
Je suis... Donc, c'est donc, ça devient mon domicile conjugal.
Ah, oh là 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 là.
Ok.
Ah ouais.
Maintenant,
la douille.
Je te trompe avec ta meilleure amie.
Ouch.
D'accord.
Ouais.
Bah, tu peux pas me sortir de chez toi.
Ah, c'est compliqué. Et tu peux pas faire un prenup, tu sais. Moi, j'aimerais faire un contrat à l'américaine où, en fait, je dis au mec, c'est simple, je garde tous les trucs à moi. Et puis, si je deviens plus riche que toi, tout l'argent me revient, je te donne rien. Par contre, si toi, tu deviens millionnaire, je récupère la moitié.
Alors, je sais pas si en France, ça marche, mais il y a tellement de trucs qu'on ignore.
Ah,
les indemnités compensatoires, la pension, il y a tellement de trucs, mais voilà.
Mais est-ce que, d'un côté, tu crois pas que c'est aussi pour ça que les gens restent ensemble? Parce que c'est tellement galère de se séparer. À un moment, t'es là, tant pis, quoi, on continue.
Bah, je sais pas si aujourd'hui ils restent autant ensemble qu'avant. Je pense que pour moi, quand on dit ouais, mais regarde, à l'époque de nos parents, ça marchait très bien. Non, ça marchait pas bien.
Ils avaient la flemme.
Mais oui, ils avaient. Et puis il y avait tellement d'autres problèmes. Et puis il y avait moins de solutions. Parlez vraiment à vos parents, parce que les gens pensent connaître leurs parents. Ils connaissent pas leurs parents. Ils connaissent leurs parents en tant que parents, pas en tant que potes.
Bien sûr. Et l'aspect financier aussi, des femmes qui ne travaillaient pas et donc qui étaient obligées de rester mariées.
Exactement.
Parce que sinon elles n'avaient rien. Ouais.
Exactement. Le seul entre guillemets bienfait d'une guerre dans un pays, c'est l'émancipation des femmes qui suit derrière. Parce que quand t'as une guerre, t'as beaucoup de jeunes hommes qui vont mourir. Mmh. Et donc, du coup, on demande aux femmes d'aller travailler pour remplacer les hommes dans les usines. Et quand elles vont travailler, bah, faut qu'on leur donne un salaire aussi. Donc, on grappille, on leur donne pas la même chose que les hommes, on leur donne quand même un salaire. Ce salaire, cet argent, c'est leur liberté, en fait. Une fois qu'elles ont de l'argent, elles peuvent décider ce qu'elles veulent faire. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai oublié ma phrase. Je suis un barjo.
Non, t'inquiète,
je fais
pas,
des digressions, je te jure.
Mais moi aussi, ça m'a embarqué sur les femmes. D'ailleurs, dans ton film, ton premier film que j'aime trop, elles ont un super rôle. Genre, c'est marrant parce que ton père, il est enfermé 10 ans. Enfin, il est battu à 100, qu'elle tombe alors que parce qu'il donc il refuse de. Enfin, je veux pas trop spoiler. Voyez le film. Mais il refuse de manger le gâteau du chat d'Iran.
C'est comme ça, c'est bizarre, mais c'était pas une boum.
Non, voilà. il fait un acte de résistance hyper fort et hyper louable, incroyable. Et dès que le personnage de ta mère intervient dans le film, c'est the badass, quoi.
Mais moi, je connais que des femmes comme ça en plus. Je connais que des femmes. Tu vois, ça m'énerve quand on dit elle, c'est une femme de caractère.
Ouais.
C'est, ça veut dire quoi? C'est parce qu'elle a un avis, en fait. Ouais. C'est une femme, quoi. Point, elle a un avis, tu vois.
Et attends, dans le spectacle, tu dis, je vois déjà trois couples qui vont pas tenir l'hiver, c'est vrai?
Ouais, j'en vois souvent.
Ah, putain.
Je te jure, il y a parfois des trucs que je dis comme ça. Ça, je l'ai improvisé un soir parce que je l'ai vu. Et ça a rigolé, bah, parfois je le garde encore.
Ouais.
Mais en fait, je te jure, de là où je suis, c'est incroyable. Parce que je joue, donc, les gens qui m'ont pas vu sur scène de sa femme, mais je joue lumière allumée. Donc les gens se voient et je les vois aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir peur et que je vais leur parler. Mais en tout cas, je les vois. Et le plus dur pour moi dans ce spectacle, c'est de réussir à sortir ce que je vais dire quand c'est un texte, tout en observant les gens pour savoir ce que je vais dire après, sur qui je vais le dire, mmh. et les infos que je vais réutiliser depuis le début, comme tu as dit, quand je place les personnages.
Mmh.
Et parfois, tu assistes à des trucs, mais... une fois, il y avait... c'est une impro que j'avais faite avant les vidéos, donc je n'ai pas pu la sortir. Il y avait... Attends, non, elle est dégueulasse, je ne vais pas la sortir.
Ah si, raconte.
Putain, je ne sais plus ce que c'était. C'était genre, je fais une blague et je ne sais plus le truc, ça finit sur... Il y a un truc d'anal.
Ok.
Tu vois. Il y avait deux petites rebeux voilées. Il y en a une qui pose. Je vois dans le regard.
Elles n'ont pas compris la blague.
Il y en a une qui n'a pas compris, qui pose la question. Et je vois dans son regard l'incompréhension. Et l'autre, elle lui. Alors, je ne peux pas faire le geste parce que les gens ne voient pas, mais c'était en mode oui, le truc.
Dans le cul.
Et voilà. Et en gros, ce truc-là m'a créé une situation où je lui dis ah, tu sais pas et tout ce que c'est, et toi tu sais ce que c'est, comment ça se fait, etc. Et je suis parti dans un délire avec les deux. J'ai dû faire 2-3 minutes d'impro sur ce moment là mais parce que je les ai vus, tu vois.
Ah bah bien sûr. Et là tout le reste de la salle se réjouit.
Ah bah oui, la synchro, en plus t'as le côté interdit,
mais oui,
t'as le côté religieux mélangé à du blasphème, tu vois. Quelque chose de, enfin pas blasphème, mais quelque chose d'interdit,
tu vois. Et c'est vrai que c'est un terrain où t'as pas peur d'aller, c'est ça qui est aussi impressionnant. Je trouve que ton spectacle il est hyper réunificateur, quoi, parce que tu vois, c'est quand même en France aujourd'hui un peu tabou de demander la religion aux gens, tu vois. Et donc ça c'est quelque chose, voilà, que, enfin je veux pas du tout, enfin faut pas trop révéler tout ce que tu poses comme question dans le spectacle, mais en tout cas parfois donc les gens le disent. Et tu sens qu'à ce moment-là, le fait de lever la main... Alors, c'est marrant parce que tu as demandé qui est juif.
Ouais.
Donc, moi, j'ai levé la main, mais on était deux. Il y avait moi et cette femme là-bas qui a répondu. Et j'étais à côté d'un couple où il y avait une femme voilée et son mec.
Okay.
Et ensuite, ils ont bugué parce que tu as demandé qui est athée. Et j'ai relevé la main.
Ben oui, c'est ça qui est génial.
Et ils étaient là, mais attends, les juifs ou les athées? Et c'est vrai que ça crée des situations de dingue, quoi. Et j'ai vu dans une de tes vidéos, il y a une meuf qui a répondu druze, qui s'est lancée dans une... Ouais. Ah, donc tu as des religions complètement
j'ai
de
tout.
L'espace.
J'ai tout. Les religions, c'est un des passages que je mets le plus sur YouTube.
Ouais.
D'ailleurs, ça me porte préjudice parce que beaucoup de gens pensent que oh, c'est un spectacle qu'on parle que de religion.
Non,
toi t'es venu, on a parlé 2 minutes, hein.
Ah oui, vraiment,
Ouais. Tu vois, mais en fait, parce que il y a tellement de diversité tous les soirs, et à chaque fois on se dit que mon monteur, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, on le met ça ou pas, on l'a jamais eu, on est obligé de le mettre. Ouais, mais on va encore parler de religion sur la chaîne. Ouais, mais c'est marrant, on s'en fout.
Ouais, c'est marrant.
J'ai tout.
Et puis c'est je sais pas, c'est important, c'est sympa, ça permet aussi voilà de l'amitié, et puis ça permet
de comprendre
déjà, voir qu'on est ensemble.
Le premier pas déjà pour pardonner, pour accepter, pour c'est de s'intéresser. Tu vois, il y a je sais plus qui disait ça, mais c'était genre je fais pour faire une blague sur quelqu'un, il faut le connaître, et pour le connaître il faut l'aimer.
Ouais.
Donc on fait pas de vannes, enfin moi en tout cas je fais pas de vannes sur si j'ai pas un minimum d'intérêt émotionnel ou intellectuel.
Ouais,
tu vois.
Et d'ailleurs tu dis à un moment que on sait pas, les gens savent pas si tu es musulman ou juif.
J'ai dit dans mon texte de fin, ouais. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis musulman. Il y a plein de gens qui pensent que je suis juif. Il y a plein de gens qui pensent que je suis athée.
Ouais.
C'est génial.
Ouais, et on saura pas la vérité.
Ah, moi aussi, je peux te la dire si tu veux, ouais. Si,
alors
si, je peux te la dire. En fait, je me rapproche le plus d'un déiste.
Ok.
C'est-à-dire que je crois en une force supérieure. Je crois que la terre. Pour moi, Dieu, c'est la terre, en fait. Que ce soit la terre elle-même ou une force qui a créé la Terre, je pense qu'on n'a pas le niveau intellectuel, ni le savoir, ni le temps suffisant pour connaître la force qui dirige la Terre. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Le créateur de la Terre, nous, à notre niveau, c'est impossible.
On n'a pas les capacités intellectuelles, tu veux dire, de le concevoir, de l'appréhender.
C'est ça. C'est comme, je sais pas, tu vois, c'est comme si dans une ferme, deux poussins, ils parlent et disent c'est qui Dieu? Au maximum, le plus brillant, il va dire c'est le fermier. Mais ils ne savent pas que le fermier, il y a encore plus haut que lui derrière. Tu vois? Voilà, nous, c'est tellement loin pour nous. Donc, pour moi, Dieu, c'est la Terre. Je pense que la Terre, elle se. Suffit à elle-même et qu'elle se recrée elle-même. Ça veut dire qu'on soit quand on nous dit oh non la pollution, l'écologie, on va tuer la Terre. Non, on va tuer la race humaine. La Terre, elle a pas besoin de nous. La Terre, donc, elle va se renouveler, elle va se refaire des mises à jour régulièrement. Il y a eu le règne des dinosaures, ensuite il y a les humains, il y aura encore une autre espèce dans quelques centaines de millions d'années peut-être, je sais pas. Et en tout cas, je pense qu'il y a une force supérieure donc qui est à l'origine de la création, mais j'arrive pas à croire au service après-vente.
J'arrive pas paradis.
Alors ça, j'y crois pas une seconde, mais je juge pas encore une fois, mais c'est mon avis. J'y crois pas une seconde. Pour moi, le paradis et l'enfer, c'est ta vie sur Terre. Si tu fais ce qu'on appelle des bonnes actions, entre guillemets, ta vie sera un paradis, et encore, c'est pas sûr. Si tu fais du mal, ta vie sera un enfer, et encore, c'est pas sûr. Mais dans la majorité des cas, oui. Mais voilà, je crois pas au paradis et l'enfer, je crois pas aux règles des religions. Je pense que la plupart des règles religieuses qui ont été inventées, c'est une question de bon sens à la base. Toutes les règles, si tu regardes bien, même si avec lesquelles on n'est pas d'accord aujourd'hui, elles ont un sens. Toutes. Le porc.
Oui, c'est mauvais pour la santé quand c'était trop gras.
Parce que c'est une viande, si elle est mal réfrigérée, elle tue.
C'est dangereux.
Sauf que maintenant, on a des frigos, ça va.
Oui.
Tu vois, polygamie. Pourquoi la polygamie?
Les maladies.
Non, la polygamie.
Ouais, bah ça te aussi, non, tu crois pas qu'il y ait des maladies?
Quelle maladie?
Sida.
Non, il n'y avait pas le sida, je pense pas qu'il y avait le sida à l'époque.
Ah,
non, polygamie en fait, moi de ce que. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est qu'en fait, une femme, pour avoir un statut dans la société, à l'époque, elle travaillait peut-être pas comme aujourd'hui. Donc, tu étais soit la fille de quelqu'un,
soit la femme,
soit la sœur. Voilà, et en gros, tu as ton cousin qui va à la guerre, il meurt, sa femme, elle est là. Et elle est veuve, elle a pas de solution pour qui va prendre soin d'elle. C'est limite un acte charitable. Je vais m'occuper de toi aussi. Tu vois, moi je fais comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont pas besoin qu'on les épouse pour prendre soin d'elles. Tu vois, le Ramadan, mais toutes les règles, même chez les Juifs, pareil.
Ouais, la circoncision. Ah ouais, tous les Américains le font.
Bah
c'est bon pour la santé.
Tu prends le. Chez les Juifs, je sais qu'il y a interdiction de mélanger le lait et la viande.
Ah oui, oui.
Tu vois,
ça je le fais pas.
Voilà, mais c'est pas bon pour l'estomac en fait.
Ouais,
c'est
ouais,
tout.
Oui,
c'est juste que c'est pas bon.
Ouais, ouais.
Et en fait, toutes les règles pour moi, tu vois, les prières, tout, il y a une question d'hygiène. C'est un code.
Ouais.
C'est un code qu'on donnait à l'époque, au-delà des États, code à tous les croyants d'un même culte. Tu vois. Mais je pense qu'avec l'évolution de la société, il y a des choses qui peuvent plus tenir la route aujourd'hui. Et quelqu'un qui suit aveuglément les préceptes de sa religion, et c'est son droit le plus absolu, il y a un moment donné, il ne pourra plus être en phase avec notre société, quelle que soit sa religion.
Ouais, bien sûr. Puis tu ne tueras pas. Voilà, c'est la base. En effet, c'est pour pas être dans la barbarie. Mais je suis d'accord que Dieu... Tu crois en la réincarnation? C'est
pas
très à la mode.
Pas du tout.
Ouais.
Je crois en rien de tout ça. En fait, tu vois, moi, je pense que c'est très humain. On a pas... Tu vois le syndrome quand t'es chez toi et que tu vois que les gens s'amusent sur les réseaux?
Ouais.
Tu vois, tes proches sont tous à une fête, un festival, un truc.
Ouais.
Et même si on t'avait invité, tu sais pas si t'y serais allé.
Ouais.
Mais t'es chez toi, tu fais... pourquoi ils s'amusent et pas moi?
Ouais.
Tu vois ce syndrome?
Ouais.
Je pense que c'est la même chose. On n'aime pas que les gens s'amusent sans nous. On n'aime pas que la fête se termine pour nous.
Et donc, il faut revenir, même sous forme de crapaud, même sous forme de libellule,
il faut revenir, il faut être quelque part avec tous les gens qu'on aime.
Ouais.
Il faut que notre âme reste dans un monde invisible. On ne peut pas accepter qu'on a un temps imparti sur Terre et que quand ce temps va se terminer, la vie est continue sans nous. Nous, on n'a pas de mal à accepter que notre vie, elle est lieu sans tous les milliards d'êtres humains qui étaient là avant nous. Pourquoi ce serait différent?
Et tu crois au Messie, au prophète, à des gens avec un message comme ça, messianique, qui vont arriver?
Pour moi, c'était des humains ultra brillants.
Ultra brillants. Des mecs qui seraient sur France Q aujourd'hui, quoi.
Un peu flou, parce que quand même, c'est des gens qui ont réussi à... Pour moi, les prophètes... Alors, je ne sais pas s'ils ont existé vraiment, j'ai pas trop suivi le cours d'histoire, je sais pas si on est sûr de l'existence de
je crois
en tant qu'humain, mais pour moi c'était des humains plus, c'était des gens qui avaient une conscience du monde, qui avaient une conscience de ce qu'on appelle la bonne conduite, qui avaient des notions de civilisation et qui ont réussi à inspirer les autres et à être suffisamment bons pour donner envie à d'autres de les suivre, parce que je pense qu'aucun prophète n'a utilisé de force pour qu'on le suive. Donc ils ont donné envie aux gens de vouer leur vie à leur façon de penser. Et c'est incroyable que plusieurs milliers d'années, aujourd'hui, je pense qu'un jour, Michael Jackson va disparaître de la tête des gens.
Ouais.
Même si ça semble impossible, tu vois. Je pense que dans, peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans,
ouais,
on ne saura plus qui est Michael Jackson. Mais on saura toujours qui sont Jésus, Mohamed, ouais, Mohamed, pardon, parce qu'il faut dire Mohamed, Mohamed et Moïse, tu vois. Donc c'est, ouais, incroyable quand même.
Mais tu te demandes quand même si Jésus reviendrait aujourd'hui, la popularité qu'il aurait. Est-ce que genre Jésus aurait un compte Insta, tu vois, pour répondre son message.
Moi, je pense qu'il faut, laisser le passé, tu vois, où il est. En vrai, le plus important dans une religion, c'est ce que ça. C'est, pour moi, c'est un outil. C'est qu'est-ce que t'en fais, tu vois. T'as un couteau. Soit tu coupes avec de la viande, tu manges mieux, plus sainement, tu mâches mieux, ça, tu digères mieux. Soit tu vas égorger des gens. Voilà. Et ben c'est pareil. Ceux qui utilisent la religion et qui ont besoin d'un cadre, et si grâce à cette religion, ils se sentent mieux dans leur vie, dans leur peau, et donc ce sont des meilleurs citoyens, mais tant mieux qu'ils aient une religion. Évidemment, il faut qu'ils aient une religion. Mmh. Ça dépend de chacun.
Et alors, tu sais faire rire et tu sais faire pleurer avec tes films. Tu préfères quoi ? Faire rire ou faire pleurer ?
Au cinéma ?
Ouais.
Aïe, aïe, aïe. C'est... Les deux sont incroyables quand même. Mais là, c'est, ouais, c'est de l'ego. Hein. C'est que de l'ego.
Ouais.
C'est purement de l'ego, ma réponse. Mais avoir là. Tu sais, moi, un de mes grands kiffs quand j'étais. Sur mes deux premiers films qui sont sortis au cinéma, il y avait beaucoup d'avant-premières. C'était de me cacher en fond de salle. Et tu sais. Et j'étais
le
à côté.
Premier reniflement.
Non, et j'étais à côté. Et pendant le film, genre, j'étais avec les gens de l'équipe et tout, par exemple. Et comme un chef d'orchestre, je faisais attention. Je levais le doigt. Rire.
Wow.
Rire, bah, parce que je savais. Et après, attention, émotion. Rire, bah, voilà. Et c'est de la musique en fait.
Mais ouais, mais c'est ouf.
Mais c'est que de l'ego, ça. C'est que de l'ego.
Non, contre, c'est pas de l'ego, franchement. C'est du talent, gars. Parce que justement, dans Nous Trois ou Rien, au départ, moi, les scènes en prison, je vois la tête de Jonathan Cohen. J'ai juste envie de rigoler, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et puis au final, je suis prise par l'émotion, quoi. Et résultat, je trouve que c'est bien parce que tu t'y attends pas, quoi. Il y a un côté tour de magie où tu te mets à chialer. La scène, je crois, du film qui m'a le plus touchée.
Le coup de téléphone.
Ouais.
Ça a eu lieu, ça. C'est un coup de téléphone qui a eu lieu entre ma mère et son père, donc mon grand-père. Et comme l'a raconté, j'étais là, mais c'est tellement cinématographique.
C'est tellement beau. Hein.
Je peux tellement pas ne pas le mettre.
Ouais.
Et tu sais qu'elle me sort des anecdotes de chaque jour depuis ce film. Je me dis, mais maman, pourquoi tu n'y as pas pensé, ah. Les gens ne savent pas, il n'y a même pas la moitié de l'histoire là.
Ah, wow.
Moi, je suis dégoûté, je ne vais pas faire de deux, tu vois. Mais du coup, oui.
Un livre ?
Oui, bah, il y a eu des problèmes, je peux pas en parler. Je te dire en off, mais okay. Ceux qui veulent savoir, allez sur mon Twitter. Vous regardez mon tweet épinglé, vous comprendrez tout.
Okay.
Mais en gros, j'ai énormément de satisfaction à faire rire les gens, parce que tu les rends heureux. Et au cinéma, j'avais énormément de satisfaction à les faire pleurer parce que je savais que la suite allait être drôle derrière.
Ouais.
Donc il y a un truc de... Non, mais t'es fier de toi en fait.
Ouais.
Moi, tu sais, je suis pas dans la contemplation. Je m'arrête jamais pour me dire putain, c'est quand même dingue ce que t'as réalisé, mec.
Ouais.
Tu vois, jamais, je fais que travailler.
Projet,
ouais, je fais que travailler. Je refuse de me poser et de me dire je veux faire comme si tout ça était normal.
Mmh. Et tu mets des vidéos depuis 2019, j'ai lu sur internet.
Ouais,
c'est assez récent, quoi.
On a fait une pause d'un an en plus, ouais.
Attends, 2019, une pause d'un an, c'est-à-dire qu'en deux ans, t'as déjà 231 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est
ouais,
un truc de malade.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que t'en avais besoin, ou parce que t'étais déjà connu avant 2019, et si t'en avais pas besoin, qu'est-ce que ça... La différence, c'est que ça a encore décuplé le phénomène, tu
vois ? Ouais, ça a décuplé parce qu'en fait, j'avais un spectacle qui marchait bien sur Paris, mais j'aime pas trop les voyages, moi, tu sais.
Ah ouais.
J'aime pas aller jouer en dehors de Paris. J'aime pas ça parce que j'ai le mal des transports, en fait.
Mmh.
Tu vois, j'ai le mal des transports. Train, ça va encore, mais voiture et TER. Je dors mal à l'hôtel. On repart le lendemain matin. Je tombe tout le temps malade en tournée. Donc, j'étais pas un fan de ça, tu vois.
Mmh.
Et puis, comme en plus, tu sais, il y a un décalage entre Paris et la tournée. C'est autre chose, en fait. À Paris, je faisais des grosses salles. Je faisais des 800 places par soir. En tournée, j'allais jouer devant 150 personnes. Il y avait 50 places qui étaient vides. Donc, j'étais pas chaud pour faire ce travail-là. Et puis, le fait de mettre la chaîne YouTube, ça m'a fait vendre des billets en tournée. J'ai gagné 4 ans, en fait, sur la tournée.
Incroyable.
J'ai fait des salles de 1000 places en un an.
C'est ouf.
Tu vois. Et là, on a, ouais, t'as dit, on a 430. Et même là, par exemple, pour être tout à fait honnête, il y a un petit déclin sur la chaîne, tu vois.
Je me suis trompée, j'ai dit 230. C'est 430 000.
Ouais.
Ah ouais, c'est ouf.
Mais du coup, t'as un... j'ai atteint, je pense qu'on appelle un petit plafond de verre, où peut-être qu'on ça ira pas plus haut, mais mon objectif, ça n'a jamais été d'être très connu. Moi, je veux juste être libre.
Raté.
Non, vraiment, je ne suis pas très connu.
Si,
non,
je t'assure. Tout le monde te connaît.
Non, je te jure que non.
Ah bah, à Paris, tout le monde te connaît.
À Paris, j'ai beaucoup joué, peut-être.
Mais même de bref. Tout le monde te connaît quand même de bref.
Mais si tu compares avec plein d'autres humoristes qui sont venus peut-être plus tard ou de ma génération, là, ils sont vraiment plus identifiés. Moi, c'est pas évident, franchement. Mais tant mieux, attention, je suis pas en train de me plaindre. Hein. Au contraire, moi, mon but, c'est d'être libre. Ça veut dire de vivre de mon travail. Et si je peux être reconnu aussi pour ce que je fais, c'est bien. Mais être connu, c'est ma hantise. Je veux pas être connu. Je suis un ermite, je sors jamais. Je veux pas être connu. J'ai du mal avec les photos.
Tu veux te tenir pas trop proche des gens.
Mais tu vois, je l'assume.
C'est bien, tu le dis.
J'ai du mal avec ce truc de ce rapport de fan à artiste. J'aime qu'on soit fan de mon travail, mais par exemple, c'est con parce que tu peux pas le dire aux gens. Mais quelqu'un qui te voit dans la rue et qui veut une photo, tu peux pas lui dire, vas-y, en vrai, pourquoi tu veux cette photo? Pourquoi tu la veux? Viens, on déconstruit le truc. Pourquoi? Parce que je t'aime bien. En quoi avoir cette photo, tu vas plus m'aimer. Non, mais c'est pour la montrer. Exactement, c'est pour la montrer. Pour toi te faire mousser. Donc, pour que toi, tu aies une interaction pour dire aux gens autour de toi, moi, je l'ai croisé ou regardé cette photo que j'ai, etc. Tu me voles un moment de ma vie. Tu me voles 4 secondes, hein. C'est pas énorme.
Mais quand même, c'est ton
intimité. Mais 4 secondes, 15 fois par jour, tu me prends des années de vie. Tu te sers de moi pour avoir un truc pour toi. Ou c'est comme ceux qui viennent et qui disent, hey, fais une dédicace pour... c'est le mariage d'un tel, ça lui fera plaisir, il t'aime bien. Mais moi, quel est mon intérêt, pardon?
Et ma vie et ma journée et mes préoccupations.
Tu m'utilises pour un truc qui te sert à toi, mais tu te rends pas compte que tu m'utilises, en fait. Et j'arrive pas à te sentir utilisée.
Bah oui, parce que là, t'es carrément objectifié. Après, je comprends qu'un soir par jour, ça doit être insupportable. Moi, c'est la première fois parce que j'ai une petite idée.
Au début, c'est kiffant.
Ah ouais, je t'avoue. Ah oui.
Mais moi, parfois, c'est kiffant aussi quand tu t'y attends pas. L'autre fois, dans le métro, il y a un mec qui me regardait chelou et tout, bizarre. Et à la fin, il est venu et puis il m'a dit, j'ai sorti de prison il n'y a pas longtemps. Et en prison, je regardais ce que tu faisais et tout. Franchement, tu m'as grave donné de la force, merci. Là, ça m'a touché.
Là,
j'ai influé sur un truc. Et il n'est même pas venu demander de photos. Il vient me le dire, il est parti. C'était cool, tu vois. Donc...
Non, mais moi, dis-toi, j'ai emmerdé des fans pour qu'on fasse une photo. Genre, tellement je suis au début du truc. J'ai des gens qui m'ont dit, hey, Rosa. Et j'ai dit, eh ben, bonjour, bravo. Et puis moi, je suis tellement genre novice dans le phénomène que je suis en mode, attends, j'ai besoin d'une petite enquête sociologique. Comment tu m'as connue? Et donc, la personne en mode, vidéo, spectacle, t'écoutes mon podcast? Oui, parfois. Ok. Puis je lui dis, est-ce que tu veux qu'on fasse une photo?
C'est toi qui étais offensive.
Oui, c'est moi qui suis offensive et le mec ou la meuf est en mode non, c'est pas la peine, merci. Et je suis en mode ok, pardon, bonne journée.
C'est très marrant, ce personnage il est génial. Ce perso est très marrant.
Ouais, je pense que peut-être que peut-être que tu sais, je devrais le mettre aussi sur YouTube justement. Qu'est-ce que tu penses de tous ces humoristes qui font un peu comme toi en fait, qui mettent des moments d'interaction sur les réseaux, ça t'embête pas trop? Pardon, mais je le fais.
Non, tu peux. Non, déjà, alors l'interaction ne m'appartient pas, tu vois. Et puis, c'est comme tout, il faut le voir du bon côté. S'ils me connaissaient pas et qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes, bah tant mieux pour eux. Et s'ils me connaissaient, bah ça les a inspirés un petit peu. Et puis tant mieux. De toute façon, comme je te disais, on n'est pas éternel. On est en perpétuel mouvement et on est voué à disparaître à un moment donné. Moi, ma peur, c'est pas d'arrêter la scène. C'est quand est-ce que je vais être ringard? À quel moment je vais devoir arrêter la scène? Ça va arriver, c'est sûr.
Pourquoi?
Mais bien sûr. Bien sûr.
Mais toi, t'as deux vies d'artiste. T'as la vie de cinéma et la vie sur scène.
Ouais.
Ça, c'est un super pouvoir.
Ouais, c'est un super pouvoir, c'est
plus
vrai.
Plus t'as la vie sur scène, la vie sur les réseaux et la vie, la vie au cinéma. Mais tu peux faire... T'as encore plein de choses. Plus, si jamais tu veux sortir des BD, des livres ou je sais pas quoi. Mais sur les films, t'as vu les réalisateurs jusque dans leur tombe.
Oui, c'est vrai.
Ils font des films.
Mais c'est beaucoup moins amusant que la scène, quand même.
Scène, tu pourras le faire à tout âge.
Bah, je sais pas, parce que la scène, il faut un public, il faut un public immédiat. Réalisateur, tu peux encore carotter 2-3 films et aller le temps qu'on se rende compte que t'es nul, tu vois. Tu mets l'arnaque, mais ou si t'as quelques entrées, t'es un mauvais réalisateur, mais t'as deux têtes d'affiche sur ton film, ça passe. En spectacle, tu peux pas. Il y a tellement d'offres aujourd'hui, il y a tellement d'humoristes. Tu vois, même tu parles d'interaction. Ma différence avec mes collègues de ma génération, entre guillemets, c'était mon interaction. Aujourd'hui, il y a combien d'humoristes qui se spécialisent dans l'interaction? je vais devoir moi-même me renouveler de moi-même. Tu vois ? Donc, c'est, on est obligé de perpétuellement se demander comment on peut se différencier. Comment
après,
on peut...
ils le font, comment dire, il y en a plein qui le font juste en clashant, en fait. En fait, c'est pas vraiment de l'interaction, c'est juste qu'ils vannent le public.
C'est pas ce que je fais, moi.
C'est pas du tout ce que
c'est
tu fais. C'est pas ce que je fais. C'est, toi, c'est bien plus performance que ça. Toi, c'est une enquête sociologique. Enfin, c'est, en fait, c'est limite une enquête journalistique. T'as l'impression d'être dans Mediapart, ton spectacle, t'en apprends sur ton voisin, sur ton prochain, et tu rends ça divertissant. Et en fait, finalement, tu crées vachement d'ouverture d'esprit.
Ah oui, moi, c'est un spectacle qui se crée entièrement.
Ouais.
Et mais ça me flatte. Merci beaucoup d'avoir remarqué ce truc-là, parce que moi, je déteste plaquer le message et dire mon film, voici le message. Mon spectacle, voici le message.
Non,
donc, je passe mon temps à dire, moi, il n'y a pas de message. Je fais ce que j'aime. Si vous en tirez un message, tant mieux. Mais en vrai, il y a plein de messages.
Et évidemment.
Mais il y a des gens, ils ne les captent pas. Et c'est dur de venir et de dire, non, t'as pas compris, c'est pas ça, en fait.
Ah bah, attends, mais si. Moi, je me suis même dit que finalement, tu faisais même un métier assez proche de celui de ton père, quand même.
Complètement.
Parce que finalement, ton père, ce que j'ai compris...
C'est un créateur de lien, mon père.
Du lien, ouais, du lien social. Ouais. Et c'est la même chose que tu fais
c'est
dans
la
le
même
spectacle,
chose,
quoi.
Effectivement, t'as raison.
Et c'est hyper bon pour la société et il y en aura toujours besoin, même quand tu auras 75 ans. En plus, tu as ce côté grand sage.
C'est gentil, merci.
Donc au final, tu vois, au contraire, ça va être de plus en plus pertinent plus tu vas vieillir. C'est genre là, tu es trop jeune pour faire ce que tu fais.
C'est incroyable. C'est beau ce que tu me dis, Anne, de l'espoir. Mais tu sais, j'ai toujours ce truc de, comme je ne crois pas à l'après et que j'ai conscience que tout va se terminer, bah, quand je commence un truc, que ce soit une relation humaine, un taf, n'importe quoi, je me dis, bon, ça va durer jusqu'à quand? Et comment faire en sorte que ça se termine le mieux possible? Et tu vois, pareil, là, sur mon spectacle, si je peux encore continuer... moi, c'est ce que j'aime le plus au monde, d'être sur scène. Donc, je continuerai tant que je peux continuer. Mais si à un moment donné, le public, bah, j'arrive pas à les garder, bah, je devrais arrêter.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et je ferai autre chose, hein, c'est pas grave. Je trouverai autre chose à faire. Mais ça, je l'arrêterai. Mais en tout cas, je n'irai pas jusqu'au moment où je serai ringard.
Ton public, il est hyper large. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'aussi dans la salle, tu vas avoir des mecs au fond qui font un peu type mec de cité, et tu vas avoir à côté un couple d'intello, puis la mère totalement bobo qui habite dans le 9e, qui ramène son fils de 12 ans.
Ouais.
Enfin, je sais pas si tu observes cette même mixité quand
moi,
pars
j'adore,
en tournée, mais
j'adore,
c'est
j'adore.
Hyper divers, quoi.
Je suis très fier de ça.
Ouais.
Je suis très fier, mais parce qu'en fait, ça représente ce que je suis. Tu sais, en général, c'est rare les humoristes qui ne sont pas d'origine française, tous français, mais qui ne sont pas d'origine française, qui n'ont jamais joué de leurs origines. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et surtout moi, j'ai commencé à l'époque du Jamel Comedy Club. C'était un peu la marque de fabrique, tu vois.
Oui, parler du bled.
Etc. Ouais. En fonction de quelle que soit ton origine, tu vois.
Oui, ouais, bien sûr.
Et en fait, moi, je n'en ai pas parlé. Ce n'est pas un choix. C'est parce que je ne connais pas bien l'Iran. Et je ne connais que deux Iraniens qui sont mes parents. Et j'avais pas trop d'histoires à raconter sur l'Iran et je suis parti sur autre chose en fait. Et du coup, j'ai pas eu de fanbase par rapport à ma communauté qui est venue me soutenir et me suivre. Donc, le fait de pas avoir eu de fanbase et le fait de moi d'avoir été élevé par des parents qui se sont tout de suite mélangés à plein de gens, il y avait pas des Iraniens chez moi tout le temps. Tu vois, il y avait de la famille, mais il y avait aussi plein de Français. J'habitais en cité. Il y avait, dans ma cité, il y avait 35 nationalités. Donc forcément, chez moi, c'est toujours une MJC. Donc tous mes potes venaient, il y avait de tout.
Bah ouais.
Tu vois, mes potes les plus proches, mes potes d'enfance, t'as Navo qui est franco-sicilien. T'as mon pote Ruth qui est malgache réunionnais. T'as Jérôme qui est antillais français. Jem qui est turc. Seb franco-tchèque. Tu vois, et je parle pas des autres, je parle juste, voilà. Et en fait, j'ai toujours eu cette mixité-là autour de moi, donc j'ai pas grandi avec ce truc de l'Iran. Et je pense que mon spectacle me ressemble.
Complètement. Et justement, toi, de ton parcours, en fait, du Jamel Comedy Club à Bref, au spectacle, tu dis que tu as fait un petit passage par la télé qui t'a pas plu, et finalement, justement, par rapport à ça, bah, YouTube, c'est quand même la liberté où tu maîtrises justement ton discours, ce que tu veux raconter.
Bah, en fait, avoir un média, c'est-à-dire une chaîne YouTube, un compte Twitter, un compte Instagram, ce que tu veux, c'est comme si t'étais une chaîne de télé, en fait. Et tu mets ce que t'as envie de mettre.
Ouais.
Et par exemple, moi, ça fait des années, presque une décennie, je crois, que j'ai pas fait de sketch en télé.
Ouais.
Et tous les ans, j'ai des propositions.
Et tu veux plus.
Mais non, ça ne m'intéresse pas.
Ouais.
Cette blague-là, je vais la garder, je vais jamais la donner, je vais la faire sur scène tous les soirs.
Bien
Cette
sûr.
Blague-là, j'aime pas comment elle a résonné ce soir-là. Vous, je sais que pour vous, c'est cool, mais moi, j'ai pas envie. Cette blague-là, là je trouve que c'est le rythme, il tombe pendant une minute, il y a moins de rythme. Non, t'inquiète pas, Kéron, ça va aller. Oui, t'as besoin de 8 minutes pour ton spectacle.
Ouais.
Non, moi, je veux la couper, celle-là.
Ouais.
Donc, ça sert à rien, c'est galère.
Ouais, les captas.
Je fais mes captas dans mon spectacle,
ouais.
Comme j'ai envie. Je coupe ce que je veux couper, je donne ce que je veux donner. Et les gens, ils viennent regarder sur ma chaîne YouTube. Fin, et s'ils sont pas contents, bah, ils viennent pas, il y a d'autres chaînes.
Ouais. Et Dragon, ça va être capté pour une chaîne ?
Le spectacle entier,
ouais.
Je ferai jamais de capta entière.
Ok, jamais. Que des extraits.
Que des extraits, je ferai jamais, jamais.
Ouais.
Parce que faire le, tu vois, je mens pas en disant que ce que j'improvise, c'est inné. je ne sais pas d'où ça me vient, c'est quelle force. J'improvise chaque soir pendant une heure. Non, c'est faux. Il y a plein de trucs, il y a plein de blagues tiroirs que j'ai créées au fil du temps que je ressors. Tu vois, il y a des moments où je fais 3-4 minutes à la suite en impro. Les gens tombent par terre si je leur disais que c'est pas de l'impro. Que ça a été une impro au début, puis après j'ai écrit une deuxième vanne, troisième, et puis aujourd'hui j'ai ce passage d'impro dès qu'il se passe cette situation-là. Sauf que si je fais un spectacle, je fais une capta, je vais donner forcément mon socle.
Eh ben oui.
Et je pourrais plus l'utiliser. Et vu que moi ce que j'aime le plus c'est la scène, c'est le contact du public, et que j'ai pas besoin d'argent en ce moment. Pourquoi faire une capta et donner ça en cadeau comme ça aux gens qui regardent ça chez eux, même pas en savourant des années de travail que je ne pourrais plus utiliser ensuite pour aller les voir chez eux et leur offrir des vraies soirées différentes. Je préfère miser sur la scène et ma chaîne YouTube.
Et faire les films. Et donc justement, t'as des projets là, des envies de films ou de séries
Ouais, j'ai une envie de film, mais c'est tellement compliqué à expliquer qu'il faut que je prenne le temps et que c'est pas un truc traditionnel.
Ah, ok, bon, ça sera
c'est
pour
un porno. Non, pas du tout. Non, c'est un truc vraiment, vraiment pas évident à vendre. Et du coup, il me faut un peu plus de temps que d'habitude pour l'écrire.
Ok, et tu voudras le faire pour le cinéma ou sur une plateforme comme ton dernier
En fait, sincèrement, moi, je vais là où je pense que pour chaque projet, il y a le meilleur partenaire possible. C'est celui qui croit le plus. Et si sur ce projet-là, c'est une plateforme qui y croit le plus, ben on ira avec plaisir avec la plateforme. Si c'est un cursus traditionnel avec distributeur, chaîne télé, etc., on ira avec le distributeur et ce sera au cinéma. Il y a toujours un kiff à sortir un... Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, en fait. C'est-à-dire que quand tu fais un film, toutes les avant-premières, etc., t'as les rires du public, t'as les émotions en live, tu rencontres les gens, ça rappelle un peu la scène, c'est kiffant. Ça prend aussi beaucoup d'énergie. Tu vois, ça prend beaucoup de temps. C'est des soirs où je ne peux pas être sur scène. Quand tu sors un truc sur une plateforme, bon bah tu l'offres aux gens direct. T'as pas l'aventure.
Ouais.
Sauf que tu as des retours immédiats, t'en as beaucoup plus.
Oui, sur les réseaux.
Ouais. Donc chacun a son avantage et son inconvénient. C'est pour ça que moi, je me suis basé sur un truc très simple, celui qui croit le plus.
Ouais. Et ça, c'est bien d'aller vers ceux qui croient le plus en nous. Et pour ton spectacle, c'est vrai quand tu dis à la fin que c'est tes parents qui le produisent ?
Complètement.
Ah oui ?
Complètement. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les différentes productions avec lesquelles j'ai travaillé. Parce que quand tu commences à mettre le nez dans les chiffres, tu te rends compte de certaines choses. Et du coup, je me suis séparé de l'ancienne production et ça tombait avec le moment où mes parents étaient disponibles, on va dire. Et du coup, ils apprennent très très vite. Et ils m'ont dit, si tu veux, nous, on peut s'occuper de ta production.
Incroyable.
Je dis, mais de quoi vous parlez, en fait ? Vous me sortez. Ça n'a rien à voir là-dedans. Et mon père m'a dit, t'as raison, on n'a pas les compétences, on n'a pas le savoir-faire pour ça, mais on peut apprendre. Et surtout, on a le savoir-faire pour d'autres choses que peut-être que plein de producteurs que tu vas rencontrer, peut-être même sûrement n'ont pas.
Ouais.
Donc si tu veux, si t'as confiance en nous,
le contact avec les mairies, tout ça, les villes,
tout, et puis la gestion humaine.
Ouais, bien
sûr. Mes parents, ils ont géré des humains depuis qu'ils sont en France. Ils sont
Ils savent parler.
Ouais, et puis ma mère, quand elle a terminé sa carrière, elle avait 50 personnes sous ses ordres entre guillemets, tu vois. Donc mon père, pareil, ce sont des gestionnaires, ce sont des gens pragmatiques, ce sont des gens dans les chiffres, ce sont des gens, et puis surtout, j'ai une confiance aveugle en eux. Ils vont jamais me voler un centime.
Mais oui.
Donc, je lui ai dit, faites tout ce que vous voulez. Et puis, ils ont mis 2-3 mois à comprendre les systèmes. Et aujourd'hui, mais quand tu leur parles de production, ils rigolent. Ils disent, c'est pas compliqué comme métier. Ils disent, mais franchement, si les gens savaient à quel point c'est pas si difficile que ça, il y aurait 1000 producteurs.
Ouais.
C'est pas si difficile que ça.
Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut que tout le temps que tu t'entendes. Tu as une relation fusionnelle avec tes parents, vous vous aimez.
Mais on n'est pas dans la démonstration, par exemple, tu vois. Pour leur dire, je ne sais même pas si je leur ai dit je t'aime.
Jamais ?
J'ai dû le dire quand j'étais petit, ou par texto, genre vraiment quand il y a un problème de santé, un truc. Mais j'ai fait un film sur eux.
Ouais, ouais.
Tu vois ?
Et leur réaction alors, justement ?
Sur le film ?
Ouais.
Ah bah, je crois que c'est... je sais pas à quel point ils sont fiers. Je peux même pas l'évaluer. Surtout que le film est réussi.
Bah ouais.
S'il avait été mauvais, ça aurait été compliqué. C'est pas vous les parents du... Ouais, si, mais c'est d'autres gars, on connaît. C'est pas nous. Mais non, je sais que... Non, ils sont extrêmement fiers. Ils sont trop fiers. Mais t'imagines, tu prends... Nous, on se rend pas compte de ce que c'est de tout perdre. Ça, quand les gens ils parlent des immigrés, ils parlent des migrants, mais ils se rendent pas compte. Et je leur en veux pas. Les gens ils sont assis ici, ils disent ouais, ils viennent. Après, la rue elle est sale. Oui, je comprends, t'as raison, la rue elle est sale. Mais tu sais pas à quoi il échappe. Et surtout, tu sais pas ce que toi tu ferais à sa place. Parce que là, dans quelques années, avec les problèmes climatiques, il y aura des vagues d'immigrés, de réfugiés, de migrants, mais dans tous les sens. Et ce n'est pas des gens qui viennent pour voler la qualité de vie des Français. C'est des gens qui viennent parce qu'il va faire 50 degrés, 60 degrés dans leur pays d'origine. Ça va être ingérable, ce truc de non-ouverture, c'est ingérable. Et en gros, nous, on ne sait pas ce que c'est de tout quitter, de recommencer. Mais quand je te dis à zéro, tu n'as même pas la langue. Mais... Ils n'ont même pas le même alphabet. Ils ont dû apprendre l'alphabet, la langue, travailler, s'intégrer, éduquer leurs enfants, être des bons citoyens, tout ça en même temps, en fait. Et après, avoir ce témoignage-là qui va rester pour l'éternité. Parce que quand tu fais un film, le film il sera disponible pour l'éternité.
Ouais, c'est incroyable.
Tu vois, donc ils sont très fiers. Et puis plein de gens leur disent bravo, votre parcours, votre fils, etc. Donc, ils sont fiers.
Ah bah ouais, c'est... il faut que je passe au questionnaire de Proust.
C'est parce que je me suis étiré que t'as fait ça ?
Non, pas du tout.
Moi, j'ai le temps.
Je me suis dit, c'est vrai, attends, j'ai aucun... on a encore...
Non, c'est que je viens du sport, je me suis mal étiré, c'est tout. Mais j'ai le temps que tu veux, vas-y. Hein.
Ah, trop bien. Non, mais alors, avant de passer au questionnaire sur tes parents, c'est vrai que c'est trop beau. Enfin, c'est une... Comment dire, c'est un témoignage d'amour à leur parcours dingue, ce que tu leur as livré. Et en même temps, quand tu vois leur parcours, ça explique aussi un peu, toi, ta force aujourd'hui. Moi, parfois, je me dis, moi, je ne suis pas fille d'immigrés, mais mon père est fils d'immigrés. Ses parents sont nés en Pologne et ont immigré pendant la Seconde Guerre mondiale.
En France.
Mais donc, il parlait un peu, il parlait yiddish, tu vois, à la maison avant de... Mais mon père ne... Et puis, ils n'ont pas voulu parler yiddish à mon père pour qu'il parle français. Mais le rapport de mon père à la France, il est quand même un peu ambigu.
Pourquoi ?
Il est un peu ambigu parce que je pense qu'il a fait des études d'histoire, il admire incroyablement la France et l'histoire de la France. Et en plus, vu qu'il était... ses parents étaient résistants communistes, lui, il a été militant communiste. La France, c'est le pays de la Révolution française, évidemment, tout ça. Des droits de l'homme.
Des Lumières.
Mais je pense aussi qu'il avait un rapport de complexe via la France.
On l'a fait sentir qu'il était migré.
Oui. Quand même, il était dyslexique à l'école.
Okay.
Et donc, il parlait pas aussi bien le français, quand même, que les autres. Et lui, il a pas, hélas, je pense, grandi non plus dans une banlieue où tout le monde avait ses origines. Lui, il était quand même le seul fils d'immigré parmi... au contraire, parce que ses parents, après la guerre, ont fait fortune. Donc, dans un bon lycée, avec des gens qui, eux aussi, avaient l'aisance financière, mais en plus, avaient... étaient des Français depuis plusieurs générations bien et des potes machin. Et donc, je crois qu'il y avait un truc comme ça où, en fait, il avait une frustration vis-à-vis de l'appartenance, de la langue et aussi un peu une jalousie, lui, de jamais se sentir finalement
français.
Ouais, suffisamment français ouais. pour les Français. On a un nom compliqué, imprononçable. et tu vois, finalement, quand il a arrêté et qu'il est devenu producteur de cinéma, il a produit que des films étrangers d'arrêt d'essai.
Okay.
Parce qu'il disait, j'arrive pas à produire des films français. J'arrive pas à produire de la comédie française et tout. Et donc, c'est un peu bizarre parce que moi, je suis héritière de ça. Et en même temps, ma mère, elle est française. Enfin, elle est d'origine juive par sa mère, mais elle est juive français depuis très longtemps et catholique par son père. Okay. Mais moi, j'adore la France, j'adore la langue française. Je maîtrise bien la langue française. Donc, un peu rapport de... Mon père était à la fois content pour moi, mais à la fois un peu jaloux. Et en même temps... moi, je rêve de faire des trucs pour la France, tu vois. Donc justement, quand je vais jouer à Lille, je me dis mais c'est une putain de victoire de jouer devant des Lillois, tu vois. En fait, c'est quand même pas acquis parce que j'ai quand même, tu vois, grandi avec mon père de on est des rats des villes, on n'est pas des rats des champs. Enfin, tu vois, cette quand même peur de la campagne. Enfin, tu vois.
Je comprends ce que tu veux dire. je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Et donc, en fait, justement, je commence un petit peu mes dates de tournée, mais dans des petits cafés-théâtres de 50 places. Et à chaque fois, pour moi, c'est de l'ordre du miracle parce que t'avais quand même une espèce de, franchement, mais de cliché, mais de coche un peu que mon père me disait attention, ils vont t'attendre avec une fourche. tu vois. Et la France est antisémite et quand même, la France a collaboré pendant la guerre. Et il y avait ces trucs
c'est
un
pareil,
peu comme
ça. Vois, quand on dit la France, tu vois, quand on dit. J'adore la France, je déteste la France est antisémite, nique la France est géniale. Pour moi, ça ne veut rien dire, parce que la France, c'est des gens, et il y a de tout en fait. Moi, je devrais dire jusqu'à la fin de ma vie, la France, quel pays merveilleux, parce qu'il y a un gars qui a mis son tampon pour qu'on soit réfugié politique en France. Si ce mec-là l'avait dit non, je serais dans un autre pays, et je dirais, nique la France, c'est des bâtards, tu vois. Ça ne veut rien dire, et en France, quand on est arrivé... On a vécu le racisme, et on a vécu le non-racisme, et on a vécu des gens qui nous ont fait confiance. Enfin, c'est des gens, c'est pour ça, moi, j'ai du mal à m'identifier.
C'est
tu
d'autres...
Vois, moi, mon rapport à la France, il est très clair. C'est, j'avais une dette envers la France, parce qu'ils nous ont accueillis, ils nous ont permis de en sécurité, ils m'ont permis de grandir dans une république, voilà, en sécurité, mes parents avoir un travail, etc. Et j'ai largement remboursé ma dette. Largement, que ce soit en termes
d'impôts,
alors là, d'impôts, de création de travail, de
postes,
de même culturellement ce que j'ai apporté au pays, en termes de divertissement pour les gens, j'ai largement remboursé ma dette, tu vois. Donc faut pas être dans un truc d'immigré où tu te dis ouais putain la France c'est de la merde ici, c'est mieux au bled. Bah va au bled, tu vas voir comment c'est éclaté en fait.
Ouais, il y a un moment que j'aime bien à toute fin de ton spectacle vendredi parce que je peux parler de l'affiche ou pas?
Vas-y.
Donc tu donnes une affiche à la fin du spectacle, mais tu fais une petite sélection voilà, à ceux à qui tu la donnes. Et donc c'est marrant parce que donc les gens rivalisent de et puis il y a une nana qui t'a dit ouais moi elle sera dans une galerie à New York et aussi dans le Marais, peut-être. Ouais, puis il y a quelqu'un qui a dit ouais, moi elle sera dans mes toilettes, moi elle sera dans ma chambre. Et puis il y a quelqu'un qui a dit oui, mais moi je travaille au château de Fontainebleau, elle sera à l'entrée. Et là, t'as fait ah bah toi, je te la donne. Et tu vois, ça m'a touchée, tu vois. Alors que je me suis dit bah oui, en fait, pour moi, c'est un peu. Ça se résume à ça, en fait, l'amour de la France. C'est juste trouver que les châteaux, c'est beau, tu vois. Et en fait, c'est aussi simple que ça.
J'ai aussi un rapport avec Fontainebleau. Mais en gros, donc je te disais, pour moi, l'immigré, il faut ni qu'il dise la France, on lui doit rien, ni jusqu'à la fin de sa vie.
Oui.
Parce que moi, tu sais, et ça arrive souvent, il y a des gens un peu qui ont des idées politiques un peu extrêmes, qui régulièrement, sur les réseaux, rappellent aux immigrés la chance qu'ils ont d'être en France, etc. Et aux immigrés connus, tu vois, ce que la France a fait pour toi, comment tu peux cracher sur la France, comment tu peux dire ce truc-là. Pas moi forcément, mais j'en vois passer plein. Moi, je suis très Twitter, tu vois. Et ces gens-là, ils se rendent pas compte que les gens à qui ils parlent, ils ont fait beaucoup plus pour la France qu'eux-mêmes.
Ah, mais c'est clair.
Ils sont là depuis longtemps, tu vois.
Ouais.
Donc, moi, j'ai pas ce truc des pays, en fait.
Ouais. Moi, je l'ai juste avec, genre, les châteaux, tu vois.
Je comprends. Tu vois. Mais c'est classe d'être dans un château.
Mais oui.
C'est classe d'être à l'entrée d'un château. T'imagines, moi, je suis un saltimbanque. À l'époque des châteaux, j'aurais été un troubadour.
Ouais.
On m'aurait jeté des piécettes pour faire rire le roi, tu vois. Et là, d'être à l'entrée, posé à côté, je trouve que c'est mignon.
Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Bon, alors, attends, je passe au questionnaire de
France. Ouais, comme tu veux, tranquille.
La qualité que tu préfères chez un homme?
Ah, moi, c'est l'empathie.
La qualité que tu préfères chez une femme?
J'ai envie de dire la même chose, mais je vais essayer de trouver autre chose pour être un peu original. Empathie, c'est pas mal aussi, parce qu'en vrai, quelqu'un qui a de l'empathie, c'est quelqu'un qui se met à la place de l'autre, et ça résout beaucoup de problèmes. Je crois qu'il y a ton téléphone qui vibre, non?
Non. C'est peut-être le tien.
Non, moi, il est en avion, ok.
Ah pardon. Non, c'est moi qui me suis appuyé sur la table.
Ah pardon, ok, alors, pardon. Ouais, je veux dire l'empathie pour les deux.
Le principal trait de ton caractère?
Je fais pas de concessions. Dans tout ce que je fais pas de concessions. Je suis entier. C'est l'impression que j'ai après, comme je te dis, on sait jamais qui on est vraiment et comment les gens nous perçoivent. Mais je me connais, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire. Et quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Je me donne les moyens de pas le faire.
Tu travailles du matin au soir, j'imagine.
Bah ouais, par exemple, tu vois, là j'ai eu un. Je devais faire un projet et puis j'ai eu une divergence artistique au dernier moment. Je me suis assis sur le projet, je ne l'ai pas fait. J'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Mais c'était un principe pour moi. C'était plus important d'être fidèle à ce principe que de faire ce projet-là dans ces conditions-là. Donc, j'ai travaillé un peu plus ailleurs. Je me suis donné les moyens de dire non à ce projet-là.
Et quand tu prends ce genre de grosses décisions importantes, qui t'écoute, c'est qui tes premiers conseillers?
Mes parents. On en a parlé beaucoup avec eux. Mais eux m'ont suivi. On va te dire ce que nous on pense, mais qu'est-ce que toi tu penses d'abord? Je leur ai dit ce que moi je pensais. Ils m'ont dit ce qu'ils pensaient. Ils ont dit, mais dans tous les cas, ce que tu as dit, ça se tient en fait. Fais-toi confiance. Mais ils sont plus inquiets que moi, par exemple. Moi, j'ai encore tendance à. Parce que comme je ne gère pas mon argent, j'ai aucune idée de combien j'ai. Donc eux, ils savent. Et parfois, ils tirent la sonnette d'alarme.
Ah ouais?
Tu vois, ouais. Je dis non à un projet. Ma mère, elle me fait « Pense-y quand même ». Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Parce que pense-y quand même, là, t'as l'appartement à payer tous les mois, il y a ça. Pense-y. Je sais pas si tu bosses pas pendant 3 mois, là, si tu vas réussir à tenir.
Mmh. »
Et après, je réfléchis et je dis ce que j'ai envie de le faire. Je dis « Non ». Et je dis, ok, bah, je ferai un truc que j'ai envie de faire pendant 3 mois qui va rapporter de l'argent. Je vais trouver une solution. Mais je me donne voilà, les moyens de dire oui ou de dire non.
Mais tu veux dire, t'as quand même accès à ton compte en banque?
Ah non, mais j'ai accès à tout. Je suis pas bloqué. Mais je m'en bats les reins.
Ah ouais, tu regardes pas.
Je m'en bats les reins. J'y vais une fois tous les 4 mois quand mon père me dit, t'as vu le chèque qui est tombé là? Je dis non. Il fait, allez, va voir, s'il te plaît.
Ah bah oui, les droits. Non?
Oh, je sais même pas.
Ouais.
Je lui dis, je lui fais croire que j'y vais. Et je m'en fous en fait. Moi, ma liberté, tu vois, le fait de ne pas faire de concessions, c'est pas ça. Ce qui me définit plus, c'est ma liberté. Et je veux être libre et je veux avoir un rapport avec l'argent où je peux l'utiliser, mais je ne veux pas en dépendre. Je ne veux pas savoir combien j'ai, combien je vais gagner, combien je vais perdre, combien on me doit, combien.
T'es pas dans des trucs d'achat, de placement, de.
Je suis rien de tout ça.
T'es propriétaire?
Ouais.
Ouais, quand même. Ouais. À Paris?
Ouais.
Ouais. Et t'as pas envie d'acheter une maison de vacances?
Non, parce que. Je suis pas très vacances.
Ah ouais?
Ouais, je m'ennuie vite en vacances.
C'est pour ça que là, tu joues tout l'été à l'Européen, c'était pour pas partir en vacances?
Ouais, c'est une excuse.
Ouais.
Parce que si je joue pas et je reste, tout le monde va me tanner pour « Pourquoi tu viens pas en vacances?
Ouais.
Mes parents, prends des vacances. Allez, on va te louer une villa, pars avec tes copains. » Des trucs d'enfant.
Ouais.
Et je dis « Non, je suis à Paris, désolé, je joue. » Et donc comme je joue, bah, personne peut rien me dire. Mais tu sais que je préfère être sur scène qu'en vacances. En fait... Les vacances, je m'ennuie vite, tu vois. Je bronzer, oui, danser un peu, oui, faire des barbecues. Non, mais c'est sympa.
Et ça te posait pas problème avec tes copines?
Si.
Bah oui.
C'est un vrai problème.
Bah ouais.
Je suis vraiment ennuyeux. Parce qu'en fait, je m'autosuffis. Et là, beaucoup de personnes, pas que des femmes, hein, mais beaucoup de personnes qui aiment être en couple, aiment pas être 1 plus 1, mais aiment être... C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 1.
Ouais.
Tu sais, ils fusionnent et ils ont besoin de plein d'activités en couple. Alors que moi, ma vision du couple, elle est différente. C'est voici le panel de tout ce que j'aime faire dans la vie. Toi, voici le panel de tout ce que tu aimes faire. Sur quoi on se rejoint? Et ce qu'on aime faire tous les deux, on le fait ensemble. Le reste, fais-le avec tes amis, ta famille, tes potes, fais ce que tu veux. T'es libre de faire ce que tu veux. Mais je vais pas m'obliger à faire des choses avec toi parce que tu as envie que je les fasse. Et je vais pas t'obliger à faire des choses avec moi parce que tu as envie que je les fasse. Je trouve que c'est plus sain. Mais après, je suis spécial. C'est pour ça que je galère autant. En couple, je suis une catastrophe.
Mais c'est dur hein, pour les humoristes d'être en couple, de tomber amoureux. J'ai regardé une série de télé-réalité où ils essayent d'organiser des dates pour des personnes autistes, plus ou moins dans le spectre, Asperger et tout. Et les autistes galèrent, hein, tu vois, à déjà supporter le date et puis ensuite à soutenir, en faire un deuxième, un troisième, à s'entendre et finalement à réussir à être en couple. Et je me disais qu'il y aurait une télé-réalité qui serait marrante à faire avec des humoristes. Et tu vois, on prend à différents âges des hommes, des meufs et on les suit. Et tu vois, et tous ces trucs de quotidien, de machin, de pas aimer les vacances, de vouloir être sur scène ou par rapport à date s'ennuyer, parce qu'il y a aussi tu vois oui, faut que la personne en face elle soit quand même sacrément intéressante pour pouvoir rivaliser un peu avec le kiff que t'as à côté, quoi.
Je te raconte une anecdote. Je sors jamais en boîte, genre vraiment jamais. La dernière fois que j'étais en boîte, c'était il y a quelques mois. La fois d'avant, c'était genre il y a 8 ans.
Ok,
tu vois, pour te dire, j'ai un pote qui sort d'une rupture douloureuse, on l'accompagne en boîte. On arrive, une boîte côté de Paris en plus. Je ne vais pas dire le nom et tout, mais un truc, moi je ne connaissais pas, mais apparemment c'est côté. On était bien installés en plus, dans un des meilleurs coins, mais quand même, je trouve que c'était pas pratique. Les gens se levaient sur les banquettes avec leurs chaussures, ça me choquait. Moi j'étais assis, donc je voulais, en plus c'est avec mon genou, j'ai fait un ligament croisé. Il y a des moments que je ne peux plus faire, donc danser c'est plus trop agréable pour moi. Ça me fait plus mal qu'autre chose. Donc les gens dansent, et moi je suis là, il y a du bruit. Il y a de l'alcool partout, je bois pas d'alcool. Les gens ils fument, je déteste, je fume pas non plus. Et j'ai rien à faire là. Et qu'est-ce que je fais? Bah je m'assois et je commence à écrire un film. Et j'ai passé une putain de soirée, j'ai kiffé. J'ai passé 3-4 heures à être assis avec mon téléphone, à noter les trucs des personnages, les axes narratifs, etc. Où est-ce que je voulais les emmener? J'ai trouvé une idée de film dans ce truc, et je suis parti dans mon univers, et quand on est parti, ils m'ont tous dit, putain, Kay, désolé, on t'a emmené là, t'es fait chier. J'ai dit, mais non, c'était super, les gars, j'ai trop kiffé. Voilà, mais c'est mon rapport à tout ce qui est festif.
Ouais.
Moi, s'il n'y a pas d'interaction par la parole,
ouais.
Tu me dis une soirée jeu de mime, loup-garou,
ouais.
Mais pour moi, c'est trop bien.
Ouais, bah oui.
Ça vaut 1000 barbecues et boîtes et danses et pool party.
Ouais, c'est clair.
Donc ouais. Je sais que c'est spécial, mais donc du coup avec les femmes c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident.
C'est des vrais grands talents d'imitatrice, quoi.
Non, faut qu'elles aient leur truc à elles,
ouais,
et qu'elles ne dépendent à aucun moment de moi.
Ouais. Est-ce que t'as besoin de les admirer?
Oui.
Ouais.
Oui. Ça, mais déjà moi si une femme me fait vraiment rire.
Ouais.
C'est beaucoup. Je suis une meuf sur ce truc-là, moi.
Ah ouais, t'es une meuf. Ouais.
Parce que c'est bah moi, quelqu'un qui me fait rire, je l'admire, en fait. Mmh. Il y a une admiration immédiate.
Mmh.
Et je suis plus... J'ai mis du temps à arriver là. Hein. J'étais pas comme ça au début. Hein. Mais aujourd'hui, genre, le physique, c'est vraiment secondaire.
Ouais.
Je te le dis vraiment sans aucune...
Non, mais bien sûr.
Tu vois, je pense que les femmes, vous avez beaucoup plus de maturité que nous à ce niveau-là.
Ah bah,
parce que vous, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça.
Oui, oui, oui.
Je connais tellement de filles qui me disent...
C'est la clé de pas s'attarder au physique.
Exactement.
Parce que les gens, en général, beaux sont cons.
Parce que c'est passager, surtout.
Ou des connards ou des connasses, mais non, mais c'est... en tout cas... Non, mais...
pas être aussi radical, mais...
Après, franchement, ouais, quand tu fais passer le physique en secondaire et que tu trouves les qualités humaines... Et que ensuite du charme à la personne. Ouais. Ah bah ouais, c'est vrai que ça c'est quand même un gage de, j'avoue.
Après, moi il y a l'humour,
Ouais.
Il y a la résolution des conflits.
Ouais.
Quelqu'un qui est doué pour gérer un conflit, c'est
primordial.
Ah, tu me prends avec ça.
Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que et plutôt ça que le talent de savoir en créer des conflits.
Ah bien sûr. Ah non mais ça c'est. Moi, j'ai peur. En plus, tu sais, j'étais médiateur avant.
Eh oui.
J'ai passé ma vie à aider les gens à
régler leurs conflits,
tu vois.
Ah ouais, donc t'avais pas besoin de rentrer, d'en avoir avec ta...
Exactement. C'est pas évident, ouais.
Alors, attends. Les prochaines questions. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
L'humour. Tu sais que je peux, vraiment sans vanne, hein, je peux traîner avec quelqu'un en lui faisant pas trop confiance... S'il me fait vraiment rire. J'ai ce rapport-là. Hein.
Ouais.
C'est étrange, hein.
Ouais, c'est dangereux quand même, attention. Hein.
Mais je sais. Mais ouais. Je sais que je peux avoir quelqu'un. Je me dis, lui, il est un peu chelou.
Ouais.
Mais
il est marrant.
Mais s'il est marrant,
ouais.
Pour moi, ça, c'est triste d'être comme ça. Hein.
Ouais, faut faire attention. Mais parce que je suis un peu comme toi, mais mon psy m'a dit attention.
Ouais, ouais, je
mon
sais.
Mon psy m'a dit attention parce qu'il me dit que j'avais beaucoup d'indulgence pour les gens en fait intelligents, etc. Même s'ils peuvent être en fait des gros connards. Et il m'a dit par contre j'ai une intolérance aux cons. Mais en fait les cons ils sont gentils, on s'en fout, tu vois. Il faut être moins, tu vois. Et plus savoir se méfier parce qu'il y a des gens marrants qui sont quand même un petit peu dangereux. Ton occupation préférée?
Mon occupation préférée, la scène et les five.
Les five?
Ouais, les foot à 5.
Ah ok.
C'est là que j'étais juste avant, tu vois.
Ah ouais, putain, c'est bien, ça permet de rester en forme et tout.
J'adore,
aussi.
C'est une, ouais, c'est une
et t'as
passion.
T'as pas trop mal aux genoux?
Bah non, le fait d'en faire, ça me maintient en forme justement.
Ok.
C'est, tu sais, moi, j'arrive jamais à penser à rien. J'ai toujours 1000 idées par seconde dans la tête, je suis ailleurs, tu vois, tout à l'heure je te parle, en même temps je compte les lumières sur le truc là. Tu vois, non mais je suis vraiment, j'ai un côté un peu autiste sur ces trucs là. Et
tu seras parfait pour la série.
et quand je joue au five, je pense à rien d'autre. C'est une drogue vraiment, j'en fais 3 fois par semaine, tu vois, 3 fois 2 heures.
Et c'est qui tes amis de five?
Ah bah c'est marrant, bah j'ai rencontré plein de mecs comme ça, des gars super sympas et c'est devenu des potes.
Ouais.
Tu vois, on joue avec vraiment on en fait 3 par semaine, donc j'ai un groupe, on doit être je sais pas 50 dedans. Après des affinités qui se créent, il y a des parcours différents et on est tous unis par ce moment-là en fait. Et c'est mais j'adore vraiment, ça me vide la tête, ça fait du bien au corps. Il y a un truc de camaraderie, de sport co, on rigole, on se dépasse. Et puis à mon âge, après eux ils ont entre 17 et 35 ans, tu vois.
Ah oui, t'es le senior.
Ouais. Je suis le plus âgé et c'est il y a pas beaucoup de gens avec qui je peux faire du sport à cette intensité là aussi.
Ah bah oui, parce que les vieux,
ils cavalent.
Ils sont... ah, ouais.
Ah mais eux ils cavalent, ils sont trop forts.
Ah, ouais.
Ah moi je suis nul à côté.
Oh.
Ils cavalent du début à la fin. Oh, c'est impressionnant. Et et le fait de quand je finis un match et que j'étais dans la moyenne par rapport à eux, je suis trop fier de moi.
Ouais.
Je me dis putain, ils ont 20 ans, merde.
Ah ouais, ouais.
Tu
ouais.
vois.
Ouais, c'est génial. Bah c'est ce qui fait que tu pourras travailler jusqu'à 150 ans.
J'espère.
Comment aimerais-tu mourir?
Simplement. Sans souffrir. Sans souffrir. Si j'ai le temps de me préparer avant, c'est encore mieux.
Tu veux dire de sentir bon des aisselles?
Non, parce que j'ai un problème avec les odeurs. Non, me préparer avant, de le savoir, je ferai une dinguerie.
Ah,
je ferai un show, je ferai un truc.
Tu organiseras un truc?
Ah oui, mais
tu
c'est
vas mettre
sûr,
ça en scène?
C'est sûr. J'ai passé ma vie à divertir les gens. Depuis que je suis petit jusqu'à maintenant, je passe ma vie à récolter des rires, à donner du bonheur. Enfin, c'est prétentieux, je ne veux pas le dire comme ça, mais tu vois, mais j'ai voué ma vie à ça. Si je peux faire de ma mort un moment joyeux, je te jure que je le ferai. Je ferai une vanne de fou, je ne sais pas quoi encore, mais j'ai vu une vidéo qui a tourné sur les réseaux. C'est un mec qui avait mis un enregistrement dans son cercueil. Et il parlait, il faisait toc toc toc, oh je sais pas quoi, il parlait et les gens pleuraient et riaient en même temps.
Ah waouh!
Je pense que c'est la vanne ultime. Faire rire alors que t'es plus de ce monde, c'est la vanne ultime. Si je peux le savoir, c'est encore mieux, donc je ferai un vrai truc. Et puis ça me permettrait de vraiment gérer mon argent et de savoir.
Tu veux choisir le cercueil et tout, l'emplacement?
J'aimerais bien que des gens n'aient pas à faire ça pour moi. Tu sais, j'ai déjà mon.
Quand ton caveau?
Je sais déjà comment je veux mourir, mais personne ne veut jouer le jeu, mais je suis premier degré quand je le dis.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je sais ce que je veux faire, mais tout le monde me dit « t'es un malade, on le fera pas ». Et ça me fait vraiment de la peine.
Bah dis, c'est comment? Moi, je te le fais.
En fait, je suis un énorme fan de pizza.
Ouais.
J'en mange 3-4 par semaine des pizzas.
Ok.
Le côté cercueil me gêne.
Ok.
Tu vois, le côté cercueil, on va se recueillir et tout, ça m'ennuie. Je suis un bout de poussière, je veux appartenir à la terre et je veux pas être quelque part et c'est là, tu vois.
Tu voudrais qu'on te mange dans une pizza?
Je veux qu'on m'incinère dans un four à feu de bois. Dans le four.
Ouais.
Donc il y aura plein d'autres cendres, il y aura pas que moi.
Mais il y aura des pizzas aussi.
Mais il y aura beaucoup de cendres, il y aura un tout petit peu, il y aura moi, mais c'est 3 trucs et on ferait cuire des pizzas. Et tous les gens que j'aime, ils viendraient ce soir-là dans cette pizzeria-là. Et c'est comme s'ils m'avaient un peu en eux jusqu'à la fin de leur vie.
Bah, c'est trop beau.
Bah ils veulent pas. Personne.
C'est un peu cannibale.
Mais je trouve pas, parce que tu manges pas de la viande, c'est des cendres.
Manges la
et
cendre.
Les cendres, elles sont pas sur le truc, tu vois.
Moi je le fais. Ah ouais, c'est l'idée, pardon, hein, c'est la réponse la plus originale. Tu n'as jamais
j'y ai pensé, j'ai même mon épitaphe et tout, je suis prêt moi pour ce moment.
C'est quoi l'épitaphe?
Eh ben, les gens vont me la voler, putain.
Non, ok, garde-la.
Je te la donne si tu veux, mais j'ai pas envie que les gens me la volent.
Promis, les gens, s'il vous plaît, ne volez pas l'épitaphe de Kairon.
Merci. En fait, j'ai anticipé le fait que, bon, si. j'aime pas trop les trucs de récompense, de trucs comme ça, tu sais. Mm. Par exemple, je suis chevalier des arts et des lettres.
Ouais.
Voilà. Mm. Ça fait je sais pas, ça doit faire 9 ans que j'ai ça. Mm. J'ai même pas été chercher la médaille, tu
ah
vois.
Ouais,
ouais. J'ai d'autres trucs comme ça que je dis même pas. Bon, ça j'en ai fait une vanne sur les réseaux, donc les gens le savent. Mais je suis pas très dans les médailles, dans ces trucs-là, dans les récompenses. Donc, moi, ça me gêne un peu d'imaginer que des gens puissent venir se recueillir sur une tombe.
Mm-hmm.
Ceux qui vont pas le faire, tant mieux, merci. Mm-hmm. Mais à ceux qui vont quand même le faire. Et donc, ceux qui vont quand même le faire, j'ai un message pour eux. Et j'ai anticipé, et le truc est prêt. Il y aura écrit « Arrête de perdre ton temps ici et va changer le monde. »
Oh. C'est beau.
J'ai déjà pensé à ce truc-là, tu vois. Quand tu crois pas au paradis et l'enfer et que tu as conscience que les choses se terminent,
bah oui.
T'anticipes et tu vois les choses différemment.
Ah, génial.
Donc voilà.
Incroyable. Et pour finir, Kairon, quel est ton état d'esprit actuel ?
Je suis serein. Là, j'ai repris mon spectacle. Je suis très heureux. J'ai hâte de jouer. Je suis en écriture d'un projet, donc je suis heureux. Et je vais être très honnête, j'ai un petit pincement parce que j'aimerais avoir des enfants. Je vais avoir 40 ans dans quelques mois.
C'est jeune pour un mec.
Ouais, mais...
T'es prêt, là.
Non, mais tu te dis ça, mais après, c'est-à-dire quand t'auras 50 ans, il aura 10 ans.
Mm.
Quand t'auras 60 ans, il aura 20 ans. Il y a des trucs que tu fais pas pareil, en fait.
Mm.
Et rien, et c'est le moment où ça fait quand même 1 ou 2 ans que j'y pense. Et là, je me dis quand même, j'aimerais bien avoir des enfants.
Mm.
Et la sensation de ce schéma s'éloigne encore plus. Ça me met un petit coup de blues, voilà.
Mm.
Mais je suis très heureux sinon et j'ai pas à me plaindre. Ce qui est prioritaire dans ma vie, c'est-à-dire que pour moi, le couple, c'est pas quelque chose de prioritaire.
Mm-mm.
Ce qui est prioritaire dans ma vie, c'est-à-dire mon épanouissement personnel, via mon travail et mes activités, ça allait complètement, donc je suis très heureux.
Ouais, mais tu pourrais toujours adopter, cela dit.
Ouais, mais il paraît que j'en parlais ce matin avec un pote aussi, mais apparemment, c'est un parcours de combattant, de trucs. Et puis. Ouais, non, je sais pas, on verra.
Ouais, on verra. Bon, merci beaucoup, Kairon.
Avec plaisir.
C'était super.
Et voilà, c'était Kairon. Incroyable cette mort, se faire incinérer dans un four à feu de bois où l'on ferait cuire des pizzas. Génial, meilleure idée de la Terre. Kairon m'a fait rire, m'a touchée et il m'a fait penser à moi. Moi aussi, je déteste les vacances et préfère travailler. À votre avis, pourquoi vous avez pile en ce moment où tout le monde fait une pause, 2 podcasts par semaine ? Comme lui, j'ai également le blues quand je pense aux enfants que j'aimerais avoir et le temps qui passe. En tout cas, j'espère vraiment qu'on restera amis, lui et moi. Et vous, je vous invite à aller voir son spectacle à l'Européen, Dragon. Et je vous fais plein de bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.